Dans une société qui a encore beaucoup de mal à accepter l'homosexualité, sortir du placard n'est pas toujours facile. Heureusement, pour contrer la pression familiale, il existe une solution, le mariage lavande. Cette semaine, Bollywood sera versus...
L'homosexualité est encore considérée comme un crime, en tout cas vu très négativement par la société. Le poids de la religion est très important puisque les trois principales religions présentes en Inde, l'islam, le christianisme et l'hindouisme, sont liées pour déclarer que l'homosexualité est vraiment quelque chose contre nature qu'il faut combattre. Il y a des cas de personnes qui sont battues physiquement et molestées pour leurs orientations sexuelles, avec également pour les cas de femmes lesbiennes, des viols, des rééducations qui leur sont imputées. Voilà !
Bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices, et bonjour Mélanie.
Bonjour tout le monde, bonjour Julie.
Est-ce que ça va bien?
Ça va très bien, et toi?
Oui, et bah écoute, ça va pas trop mal, je me démarre comme je peux avec des informaticiens et des chercheurs un peu casse-couilles.
Courage.
Mais globalement, ça va, la neige s'est déplacée de nouveau du soleil, alors voilà, tout va mieux.
Oui, ça fait du bien de retrouver le soleil.
Bah oui, et j'ai même envie de dire que cette semaine, on va retrouver l'arc-en-ciel, puisque...
Oh
ah, je sais. Oh puisque du coup, nous allons parler aujourd'hui de la communauté LGBT. On l'avait déjà fait dans d'autres épisodes, et notamment en parlant de la transidentité dans l'épisode sur Lakshmi, qui est un très mauvais film pour représenter cette communauté.
Ne regardez pas ce film.
Regarde-le pour voir ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà, ou écoutez notre épisode, c'est mieux.
Voilà, évitez-vous les mauvais trucs. Non, cette semaine, on va parler d'un bon film qui parle de la communauté LGBT et plus particulièrement de l'homosexualité, qui est Bad Ido. Eh oui, ce film, je pense que tout le monde, enfin, vous en avez forcément entendu un petit peu parler, ça a fait le tour, et puis surtout, il est sorti très récemment. Mm-hmm. C'était quoi, en début d'année, non?
Oui, il me semble, ouais.
Voilà, donc ça fait à peine quelques mois qu'il est sorti. Donc c'est un film qui dure 2h26 et qui est une sorte de suite spirituelle, en fait, à un premier film qui s'appelait Bad Ido, qui est sorti en 2018. Alors ça n'a rien à voir avec... Les deux films sont indépendants, mais ce sont deux films, en fait, qui sont engagés sur une thématique de société, et même on pourrait dire une thématique féministe. Le premier film, c'était sur, en fait, la sexualité des parents ou des personnes arrivées à 50, 60 ans, qui est toujours un truc très, très tabou. Hein. On en avait parlé notamment avec Lipstick Under My Burqa.
Ouais, avec Rose.
Donc voilà, donc c'était déjà un film très engagé qui était avec Ayushman Khurrana. Donc c'est l'acteur dont on a parlé avec Andadoun et avec Sanya Malhotra, qui était l'actrice principale de Paglet.
Mmh.
Un beau duo.
Effectivement.
Voilà, mais du coup, donc, cette semaine, on va plutôt parler de Bad Ido. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, Bad Ido, Mélanie?
Je crois que ça veut dire genre félicitations ou un truc dans le genre. Mais j'ai plus la traduction exacte en tête.
Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. En fait, en anglais, ce serait give felicitation. Donc, nous, ce serait juste félicitations. Bravo, félicitations, congratulations, pour la faire à l'ancienne. Et donc, c'est un film qui dure 2h26, le réalisateur c'est Harshvardhan Kulkarni, oulala.
C'était dur à dire.
voilà. Et en fait, en tête d'affiche, on retrouve quelqu'un que nous avons vu il y a pas si longtemps que ça, qui est ce cher Rajkumar Rao.
Tout à fait, dans Judgmental Heikia. Ok, non, Eika, je ne sais plus du titre.
Ouais, c'est ça. Et cette fois, il ne donne pas la réplique à notre cher Kangana, mais à Bhumi Pednekar, qu'on avait vu où, Mélanie?
Dans Toilette Ek Prima Kata, avec Akshay Kumar.
Quand il autant dire que ça fait stalker. Genre un bail qu'on n'a pas parlé d'elle.
Ah bah, ouais, parce que Toilette Ek Prima, je me demande si c'était pas dans nos premiers épisodes.
Si, c'est genre...
Ouais, voilà. Donc ça doit faire genre pas loin
un truc comme ça.
Ouais, ça doit faire pas loin de 2 ans, quoi.
On l'a pas trop mise à l'honneur, la pauvre.
Non, pourtant, c'est une bonne actrice, en plus.
Tout à fait. Dans le reste du casting, on trouve Choum Darang, que l'on a croisé, enfin, je dis on. Oui, nous on l'a croisé en tout cas dans Gangubai, assez
Ouais,
récemment. Vous
mais
l'avez peut-être croisé également dans Patal
d'ailleurs, je me souvenais absolument pas d'elle dans Gangubai, la pauvre. Mais je pense qu'elle
Bah, en
fait,
fait, elle a un tout
elle
petit
fait
rôle.
partie des filles du bordel, quoi, et il y en a tellement que j'ai pas fait gaffe, quoi.
Oui, non, non, en plus, ça passe très vite hein, sur les actrices qui font les prostituées de Gangubai. On a également, tout droit venu de Gangubai, Sima
Oui!
Pawa.
Qui
Là,
joue
tu me l'as reconnue
bah...
direct.
Bah, sa tête, elle me disait quelque chose. Du coup, je suis allée voir sur sa page Wikipédia, puis j'ai vu que bah, c'est elle qui jouait en gros la maquerelle dans Gangubai. On fera un épisode sur Gangubai bientôt, hein, quand il sera disponible, hein, vous inquiétez pas.
Tout à fait. Ensuite, nous avons Shiba Shada, que l'on a croisé dans beaucoup de films dont qu'on a déjà traité, parce qu'en fait, bah, elle joue assez souvent le rôle des mamans.
Ouais.
Et donc, on l'a croisé dans Umdilde
Dit, ouais.
Chukesanam, dans Firbidilhae Hindustani, dans Raes, dans Zero, dans Gully Boy et dans Paglet.
Je ne me souvenais absolument pas de cette dame.
Enfin, si, tu te souviens de son visage quand même.
Oui,
T'aurais
bon,
peut-être
bah
pas
oui.
resitué dans quel film tu l'avais vu,
Bah,
mais tu te
j'ai
souvenais l'avoir déjà
regardé.
vu.
Non. Je suis désolée, non.
Oh
J'ai regardé.
non, elle est
Mais non,
trop
mais
shoot en plus.
Mais oui, elle est trop shoot, mais j'ai regardé sa page Wikipédia et puis j'ai vu dans tous les films qu'elle avait joué et qu'on avait vu, j'étais ah bon, elle jouait dedans, mais je m'en souviens pas.
Ouais, bon alors souvenez-vous, Mélanie, hein, les faciès, la mémoire.
Je ne me souviens de personne. Voilà.
Et pour terminer, nous avons Gulshan Devaya, que l'on a croisé dans Ramlela et dans Unposed.
Ah oui, le film
Pareil, il joue
Unposed.
souvent des rôles plutôt secondaires. Hein.
D'accord.
Voilà pour le casting. Donc en fait, finalement, plein de têtes connues. Un casting relativement voilà bien connu. Et bah, écoute, Mélanie, si tu nous racontais un petit peu de quoi parle Badaido.
Mais avec plaisir. Comme tant d'autres avant lui, à l'instar de Ranveer Singh ou Ajay Devgan, Shardul, policier, porte fièrement l'uniforme, la moustache et les muscles qui vont avec, tout en esquivant les demandes de sa famille qui ne pense qu'à le marier. Et pour cause, il est gay. Et si l'Inde a dépénalisé l'homosexualité, elle est légèrement réfractaire au mariage pour tous. Mais ne jugeons pas ce pays trop durement. Nous, on se tape bien la manif pour tous avec ses idées bien arriérées. Lorsque Shardul rencontre Soumi, une jeune femme lesbienne dont la mère a engagé une marieuse, comme dans Mulan, l'évidence s'impose. Les jeunes gens vont s'épousailler pour que leurs familles respectives leur foutent la paix et qu'ils puissent batifoler à leur gré ailleurs. Mais la vie de faux couple n'est pas toujours rose, et après l'injonction à se caser, voici venir l'injonction à faire des enfants. Et sinon, quand est-ce que vous nous lâchez le cul?
Merci Mélanie.
Ah, pas de rien.
Donc oui, vous avez compris, en fait, tout repose, et d'ailleurs, ça se voit dans le trailer, en fait, tout repose sur l'idée de faire ce qu'on appelle un mariage lavande. Donc en fait, c'est un procédé assez classique où bah, des personnes homosexuelles trouvent le moyen de se caser avec une personne de l'autre sexe, en fait, pour cacher leur homosexualité, faire un faux couple et du coup pouvoir vivre bah, comme des colocs et que tout le monde bah, leur foute la paix en disant ah, bah, c'est bon, ils sont casés, ils sont avec de très gros guillemets normaux, alors qu'en fait derrière, eh ben, ils vont cacher leur vraie orientation sexuelle, quoi.
Exactement.
Et je réalise que je n'ai pas du tout vu le trailer.
Ah bah bravo.
Je suis désolée, j'ai totalement oublié de regarder le trailer. C'est au moment où j'étais en train de dire, ça se voit dans le trailer, et là je fais, ah ouais, j'ai pas vu le trailer.
Voilà,
Mais
bah
c'est pas grave,
moi
Mélanie,
j'ai
qu'as-tu
vu le
pensé du
trailer.
trailer?
Ouais, mais c'est nul si on peut pas débattre. Mais oui, bah, moi j'ai vu le trailer parce que j'ai fait mes devoirs, tu vois, comme il faut.
Et ça va, hein. Le nombre de fois où je te rappelle de regarder le trailer, ne me
Oh,
juge
le nombre
pas.
de fois où je t'ai rappelé de le faire aussi, hein, voilà.
Non, mais j'ai dû
Bon,
le
on est
voir
quitte.
au tout début, en fait, quand il y a commencé à y avoir la promo, notamment pour la sortie en France, Donc j'ai vaguement des souvenirs, mais c'est vrai que je l'ai pas revu depuis, c'est pas très frais dans ma tête.
Bah, le trailer est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'il donne envie de voir le film. Tu vois direct que ça va être une comédie et que. Bon, moi, il m'a. Enfin, je l'ai vu après avoir vu le film, mais en fait, il est conçu assez bizarrement. C'est-à-dire que dès le départ, tu comprends en fait que le personnage féminin est lesbienne. Et en fait, tu apprends tout à la fin du trailer que le personnage masculin est gay. Et en fait, vu que l'info, elle venait pas, j'étais en mode, mais pourquoi ils le disent pas dans le film? Du coup, on a l'impression que. Enfin, dans le trailer, du coup, on a l'impression que ça fausse un petit peu l'histoire. Mais au final, après, j'ai été. Rassuré que l'info ait été lâchée, mais en vrai, moi je trouve que c'est un trailer qui est assez sympa, assez dynamique et qui te donne plutôt envie de voir le film. Et tu comprends que ça va quand même être un truc de assez sociétal qui va vouloir te faire passer le message de c'est ok d'être gay ou lesbienne.
Ouais, peut-être que au départ, l'idée du trailer, c'était un peu de mener sur une fausse piste du style, en gros, t'en as un qui va s'engager pour de vrai dans une relation sans savoir que l'autre, en fait, est pas du tout du même bord et
Ouais.
que ça peut pas fonctionner. Peut-être qu'au début, c'était pour mener sur cette idée qui, comme une romance, en fait, qui serait impossible. Mais finalement, à la fin, ils mènent pas non plus sur un mensonge. Ils viennent montrer que également le personnage de Rajkumar est gay également pour pas non plus que ce soit totalement mensonger, parce que sinon ce serait embêtant de laisser
Oui.
sous-entendre que tu auras une sorte de triangle amoureux, tu vois. Enfin, si on peut appeler
C'est
ça un
ça.
triangle amoureux, mais tu vois ce que je veux dire. Non, moi j'avais souvenir, oui, que le trailer était assez dynamique, plutôt enjoué, que tu vois que c'est une comédie. Mais mon souvenir, c'était de me dire, en gros, on va passer la majeure partie du film. À plutôt voir comment en fait chacun vit sa vie, comment et puis comment ils vont aboutir en fait à un mariage, ce qui n'est pas vraiment la structure du film.
Mais je m'attendais à ça aussi à la base en fait. Enfin, on en reparlera, mais dans le film, le mariage arrive très très tôt. Et moi, je sais pas pourquoi, je pensais vraiment que ça allait arriver beaucoup plus tard en fait. Qu'il y aurait, comme tu dis, une espèce de construction autour d'eux, des discussions, des pourparlers, des hésitations, et qu'à la fin, ils se disaient bon bah ok, on se marie. Sauf que là, ça arrive très très rapidement.
Voilà, exactement. C'était exactement ça. Du coup, avant de démarrer sur le film, puisque nous parlons justement de la commu LGBT, je pense qu'il sera pas mal de revoir quelques petites infos. Déjà, dans un premier temps, bah, parler un petit peu de la communauté LGBT en Inde. Où est-ce que ça en est? Quels sont ses droits? Pour avoir une idée, parce que bah, il faut qu'on sache un petit peu quand même. Nous, on sait comment ça se passe en France, mais avoir une idée un petit peu de comment ça se passe en Inde. Est-ce que ça a évolué en même temps que nous? Est-ce qu'il y a des lois récentes, pas récentes, etc. Et ensuite, de parler un petit peu aussi bah, de la représentation de cette communauté dans Bollywood, parce que bah, le cinéma, il est là pour refléter la société aussi, ou justement l'aider à avancer. Donc on va voir un petit peu aussi, bah, est-ce que ça fait longtemps, pas très longtemps, qu'elle a le droit d'être à l'écran, comment ça a évolué, etc., etc.
Alors
Mélanie,
déjà, oui,
je te laisse y aller, dis-nous
merci.
tout.
Alors, il faut savoir que l'homosexualité a été dépénalisée en Inde. À ton avis, en quelle année?
Et oui, parce que ça, bah, je pensais que tu allais faire une chronologie, parce que j'avais regardé justement
Ah non,
la...
j'ai pas fait toute une chronologie, j'ai que quelques chiffres, je suis désolée.
Et en
Qu'est-ce que
2018.
tu... Exactement, en 2018, le
Yes.
mariage. Le mariage, par contre, n'est toujours pas autorisé. Donc, l'adoption pour les couples du même sexe non plus, hein, ça coule de source. J'ai quelques chiffres aussi sur la population LGBT en Inde. Alors, d'après le rapport Ipsos de 2021, 3% de la population se déclare comme gay ou lesbienne, 9% bisexuel, 1% pansexuel, 2% asexuel. Je parlais du mariage, du coup, tout à l'heure, je m'étends un petit peu au reste du monde. C'est le Danemark, en 1989, qui a été le premier pays au monde à autoriser l'union civile pour les personnes homosexuelles. Mais ce sont les Pays-Bas, en 2001, qui ont autorisé le mariage homosexuel. Et nous, en France, ce n'est arrivé qu'en 2013.
Ah oui, mais nous, on n'est jamais les pionniers.
Ah bah ça!
là là, attends. Mais ça m'étonne pas trop, ouais, les pays du Nord, là, Danemark et Pays-Bas, c'est vrai qu'en général, c'est toujours... Sur ce genre de sujet, c'est quand même eux, en général, qui démarrent le plus tôt, donc je suis pas trop étonnée. Mais il faut se dire que, quand même, en Inde, 2018, c'est tard. Hein.
Ah bah,
c'est, enfin, je veux dire, c'est tout tard, récent, hein. Vous vous rendez compte, les gens, ça fait à peine...
Mais
à peine 4 ans, tu vois, qui peuvent... Ouais. Enfin, mais... encore, j'allais dire, se outer, et même pas vraiment.
Et encore,
parce
et
que
encore.
Vu le... Parce que vu la société, là, tu vois, les chiffres que t'as donnés, ils sont super bas, et je suis sûre que...
Il y a plein de gens qui peuvent pas se déclarer.
Ah oui, ils sont dans le placard, c'est sûr.
Mais du coup, oui, en plus, en France, il me semble que ça n'a plus été considéré comme une maladie mentale, parce que oui, c'était considéré comme une maladie mentale dans les années 80, je crois, hein.
Ouais, mais c'est, suivant
c'est
certains.
Très tard aussi.
Non, mais suivant certaines personnes. Bah, enfin, on a toujours les thérapies de conversion. Hein.
Oui, bah, ça. D'ailleurs, enfin, il est censé y avoir une loi qui doit être promulguée pour interdire ça. Il me semble.
Ouais. Ouais, ouais. Et puis là, en ce moment, il y a une recrudescence, notamment aux États-Unis, où il y a de nouveau, si je ne dis pas de bêtises, c'est en Floride, hein, que sont en train de s'instaurer les lois. Don't say gay. Qu'il ne faut pas promouvoir l'homosexualité auprès des enfants.
C'est ça, il faut pas leur en parler parce que sinon, oulala, attention, on sait pas ce qui va se passer, mais c'est très grave. Mais enfin, c'est une régression dans le monde, mais c'est absolument incroyable. Enfin, de toute façon, les États-Unis en ce moment, donc t'as la loi, comme tu dis, Don't Say Gay, et l'avortement qui est en train, enfin, les droits à l'avortement qui sont en train de reculer de plus en plus, mais eux, c'est violent, quoi.
Ouais, bah oui, ça va avec la grande vague, en fait, de radicalisation qui se fait un peu partout, là. Donc, je suis pas trop étonnée. Mais oui, donc, pour revenir aux origines de tout ça, c'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, justement, de cette légalisation, c'est parce qu'il y a une section de la loi qui est tombée, qui est la section 377. Et donc, en fait, c'est une section, c'est une portion de loi qui a été instaurée en 1860 par qui, Mélanie, sinon, chers amis, les colons britanniques.
Oh mon Dieu, mais je m'y attendais pas du tout, vraiment.
Qui donc, en fait, avait instauré dans la loi une section disant qu'il fallait contrôler les activités sexuelles et rendre immoral le sexe oral, le sexe anal, la transidentité et l'homosexualité, et la punition si tu te faisais attraper, c'était tout simplement l'emprisonnement à vie. Voilà.
Ah, c'est super.
Voilà, le fameux puritanisme britannique qui s'est instauré pendant le Raj. Hein. On en a déjà beaucoup parlé, mais... Donc voilà, donc c'est cette section-là, en fait, qui a traîné jusqu'en 2018, où enfin elle est tombée, et c'est devenu anticonstitutionnel. Voilà, et ça a fait donc enfin une révolution pour la communauté LGBT en Inde.
C'est pas trop tôt.
Non, c'est sûr. Et du coup, pour rester dans cette communauté queer, il y a une loi en 2019, donc là c'est plutôt pour les transgenres, qui a fait qu'ils peuvent officiellement changer leur genre, mais uniquement après une opération des appareils génitaux.
D'accord.
Sympathique.
Ouais, mais en France, c'est pas le cas, si je dis pas de conneries, heureusement.
Si, il me semble que c'est pareil.
Ah bon ?
Je suis pas sûre que t'aies le droit de changer ton état civil, comme ça.
Oui, mais je suis pas sûre que tu doives te faire opérer.
Ah, j'ai un doute.
Ouais,
c'est peut-être tombé, mais... Pas certaine.
Mais je crois que les lois, enfin, à ce niveau-là, se sont quand même un petit peu assouplies, parce qu'avant, c'était un peu plus hardcore. Enfin, fallait faire tout un suivi psychiatrique, ce genre de choses. Enfin, limite, c'était en mode, ah, non, mais ces gens sont fous et tout ça, faut les ramener à la raison. Enfin, c'est ignoble, quoi.
Donc voilà, donc ça, c'est pour l'évolution, en tout cas, de la société. Donc du coup, je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça va donner si on regarde du côté du cinéma. Mélanie, est-ce que tu as mené tes petites recherches du côté du cinéma ?
Alors, Je t'avoue que Bad Aido, c'est le seul film traitant d'homosexualité que j'ai vu à Bollywood, mais je sais qu'il y en a d'autres. Il y avait par exemple Ma Brother Nikhil. Il y en a un autre sur, j'ai oublié le nom, mais sur un professeur d'université. Je sais plus
oui.
le nom.
Oui, Aligarh.
Merci. Et il y a également Dostana avec Abhishek, John Abrams et Priyanka Chopra, qui est plus une comédie. On en avait parlé enfin, en off plusieurs fois, toutes les deux. Je ne l'ai toujours pas vue parce que tu sens que voilà, c'est les années 2000. Donc, ça a l'air quand même un petit peu moqueur. Ça a l'air de surfer sur les clichés. Et je bloque un petit peu de ce côté-là.
C'est ça. En fait, quand on regarde un petit peu l'évolution, en fait, souviens-toi, on en avait parlé notamment dans l'épisode sur le Kama Sutra, le premier baiser gay qu'il y a eu au cinéma Bollywood, c'était en 2012. Donc c'était il y a vraiment pas très longtemps, hein, quand on
il y a 10
ans cinéma, que ce cinéma-là existe depuis les années 20. Autant vous dire que voilà, le paysage n'a pas vu grand-chose jusque-là. Et donc, c'était dans un film réalisé... Enfin, c'était un film qui regroupait 4 courts-métrages, en fait. Et c'était celui réalisé par Karan Johar, qui n'a jamais officiellement affiché son homosexualité. Mais bon, il y a des rumeurs qui planent autour de lui, donc... Ce qui pourrait laisser penser pourquoi il est autant engagé en fait dans cette cause-là. Mais effectivement, le problème, c'est que jusqu'ici, la plupart des films, en fait, déjà, n'a jamais montré d'homosexualité féminine. Parce que ça, on le sait, ça n'existe pas, bien sûr.
On l'a vu dans 10%. Enfin, dans la version...
Oui, mais ça, c'est dans les trucs récents. C'est-à-dire que vraiment, jusqu'ici... ça n'existait pas, et la seule homosexualité qu'on voyait, c'était entre des hommes, et à chaque fois, t'avais soit, en gros, l'homme prédateur efféminé, donc c'est vraiment genre celui qui va se mettre à flirter avec un des héros, et genre, ah, c'est trop drôle, peut-être que, oh là là, il pourrait se passer des trucs, on sait jamais, peut-être qu'il va lui sauter dessus, ah, c'est trop drôle, ou le fameux... homo, en gros, eunuque. Donc, c'est vraiment celui qui est ultra efféminé, c'est comme une femme, c'est vraiment l'eunuque. Et je pense que les meilleurs exemples, on a typiquement ces deux types de profils dans Houseful 4, avec d'un côté Ritesh, qui a justement son espèce de personnage du passé, qui est le pseudo gay eunuque, donc voilà, qui danse, qui est efféminé, qui va rouler des hanches et tout. Et l'autre, c'est celui de Johnny Lever, où on va avoir ce personnage qui est plus dans le gay prédateur qui va courir après le personnage de Pasta.
C'est vrai, j'avais oublié ça.
Donc on a un film avec les deux bons clichés homophobes.
Super.
Voilà, et effectivement, il y a Dostana donc, qui est sorti en 2008, où en fait c'est même plus cringe que ça, parce que dans Dostana, c'est deux gars qui, pour choper une meuf et vivre dans le même appart qu'elle, vont faire croire qu'ils sont gays. Donc c'est encore plus cringe, tu vois, c'est-à-dire que non seulement ils font semblant, ils ont utilisé tous les clichés sur les gays, mais en plus le but derrière, à la base, c'est de choper la meuf qui vit avec eux.
C'est dégueulasse.
C'est hyper cringe quand tu regardes aujourd'hui, tu fais oula.
Oui, et puis en fait, je me souviens parce que tu m'avais montré un des clips de la musique, mais donc t'as la maman d'un des deux qui est jouée par Kyron Kerr qui essaye un petit peu de faire de la sorcellerie pour faire en sorte
qu'il exorciser, soit, ouais, l'homosexualité,
voilà, exorciser l'homosexualité et tout ça. Et franchement, et qui est en mode désespéré parce que oh là là, mon fils est gay, c'est terrible, c'est affreux, oh là là, bouhouhou, mais oh là là.
Mais même l'idée de dire on va faire un exorcisme, quoi.
Mais ouais, genre, c'est genre vraiment, c'est le diable.
Ouais, ouais, c'est un truc du malin, tu vois, d'être gay.
Mais bref. C'est ouf, en fait, parce que quand on repense un peu à l'histoire de l'homosexualité, ça, ou même la bisexualité, ça a toujours, toujours existé. Parce que, enfin, on le rappelle, c'est une sexualité qui est tout à fait normale, au même titre que l'hétérosexualité. Et bon, bah, moi, je vais prendre des exemples que je connais, mais bon, les Grecs, les Romains, enfin, voilà, il n'y avait pas... il n'y avait pas de souci. Je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités, sinon ça va être cours d'histoire assez chiant, je me connais. Mais voilà, c'était totalement accepté, il n'y avait pas de souci. L'homosexualité masculine, hein, j'entends, parce que l'homosexualité féminine, un petit peu moins, hein, quand même.
Non, mais toujours pas, ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça n'existe pas. Ce sont des amis, elles sont proches, c'est juste des bonnes copines.
Ah, mais n'empêche que la poétesse Sappho était reconnue, du coup, pour être homosexuelle, quoi. D'ailleurs, allez, petit cours d'histoire, je m'en fous. Donc, elle vivait sur l'île de Lesbos, et c'est ce qui a donné le terme lesbienne, aujourd'hui.
Bah, comme le terme de saphique. Voilà.
Bah oui, exactement, Julie, t'as tout
les
compris.
Les relations saphiques, eh oui. Donc oui, voilà. Donc effectivement, donc on a tous ces clichés ambulants qui ont énormément traîné en fait dans le cinéma Bollywood. Et puis ça a commencé légèrement à apparaître vers le début des années 2000 et puis 2010. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait ce premier baiser gay à l'écran, donc avec le film de Karan Johar. Au début, on avait eu en 98, dans le film Fire de Deepa Mehta, un érotisme, une relation quand même explicitement lesbienne entre les deux héroïnes qui sont délaissées par leur mari. On a également une scène qui est légèrement saphique érotique, dans le film La saison des femmes. Et puis, on a en 2015, dans Margarita with a Straw, effectivement, un couple lesbien. Et en plus, pour une fois, on a un couple qui est lesbien, mais avec une héroïne et qui est bisexuelle. Et également l'intégration de deux héroïnes qui ont un handicap physique et mental. Donc, pour une fois, en plus, ça permettait de représenter une sexualité, une homosexualité également pour... toutes les personnes, quoi. C'était pas plus mal, parce que c'est vrai que souvent, pareil, la bisexualité est très mal représentée au cinéma. Ça marche aussi pour le cinéma occidental. Donc, voilà. Donc, petit à petit, ça avance. Et effectivement, est arrivée un peu une nouvelle génération. Je pense à Ayushman. Qui est donc le... Je dis Ayushman, peut-être que ça parle pas à tout le monde, donc c'est le héros de Andadoun, pour situer. Qui, à travers les films dans lesquels il a participé, en fait, s'est engagé publiquement à soutenir la communauté LGBT. Et globalement, généralement, tous les acteurs et actrices qui ont fait des films engagés comme ça, derrière, ont beaucoup soutenu la communauté LGBT. Donc si je peux vous donner quelques autres suggestions de films, avec Ayushman, justement, on a... Ouh là là, le titre est compliqué, pardonnez-moi. Allez, par avance. Soub Mangal Ziada Safdan, que vous chercherez dans la filmo d'Ayushman, qui est du coup une rom-com avec un couple d'hommes gays et avec présence de baisers à l'écran, ouh là là. On a Ek Lakki Ko Leka To Eza Laga, oulala, ça aussi c'est trop long, qui est un film sorti en 2019 avec un coming out lesbien. On a Shir Korma, qui a fait beaucoup d'émules dernièrement, donc c'est un film qui est sorti cette année, il me semble, c'est un court-métrage, et qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est un couple avec une lesbienne, et une femme non-binaire, mais en plus elles sont musulmanes, donc du coup ça a fait pas mal de vagues. voilà. Ah, et oui, puis après, oui. Sinon, globalement, pour s'en sortir, en fait, ça passe sur les plateformes. Donc tu l'as rappelé tout à l'heure, avec le personnage d'Amal, du remake de 10% avec Call My Agent, et également la série Made in Heaven, où là aussi on a un personnage principal qui est ouvertement gay et qui est en couple, etc. Et puis ça montre aussi comment il gère ça dans la société, comment il est obligé de se cacher, comment il se retrouve tabassé ou exclu à partir du moment où les gens savent qu'il est gay. Voilà. Et effectivement, tu le redisais tout à l'heure, Aligarh, qui est une histoire vraie, hein, d'ailleurs. Oui. L'histoire d'Aligarh, de ce professeur là de l'Uttar Pradesh qui a été dénoncé comme étant homosexuel, qui s'est retrouvé en fait la cible de tout son quartier, qui a été licencié, insulté, battu, etc. Et dedans, il y a également Rajkumar Rao qui joue.
Ah.
Voilà. Donc voilà, vous avez toute une belle filmo quand même finalement. Quand on regarde un peu, on se dit il y a quand même des films.
Bah oui, c'est bien. Il faut trouver les bons, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah c'est ceux que je vous dis, c'est plutôt ceux qui sont un peu plus récents. Encore que Aligarh, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti.
Ouais, il me semble.
Mais ouais, mais ça existe quand même. Et en fait, globalement, tu vois que ça se fait plutôt avec la nouvelle génération. C'est quand on regarde, bah tu vois pas les grands noms. C'est-à-dire que tu vois pas un Shah Rukh, tu vois pas un Hrithik, tu vois pas Rani, tu vois pas Kajol, tu vois pas tout cela, toute cette ancienne génération qui finalement a marqué Bollywood et qui justement, s'il faisait un film engagé comme ça, bah ça aurait vachement d'impact. Parce que ça,
Bah
c'est
ouais.
des grands noms, les gens iraient voir le film et peut-être que ça toucherait plus de monde. Mais t'as l'impression qu'en gros, soit on leur propose pas, soit ils ne veulent pas toucher à leur image, tu vois. Alors qu'on aurait enfin un film avec Shah Rukh, tu te dirais, bah, le gars il est engagé, il tente quelque chose, tu vois. Il a un nom qui porte, c'est l'occasion que jamais d'être un étendard pour la communauté. Et tu te dis, bah, est-ce qu'il veut pas? Est-ce qu'il a peur de toucher à sa popularité, à son image, parce que ça a toujours été le genre idéal. Tu vois, tu te dis, bah, c'est dommage, l'ancienne génération, elle n'a pas tenté d'être là-dedans, il faut compter que sur les jeunes pour avoir ce genre de filmo très engagé.
Après, c'est peut-être aussi une question de génération. Tu vois, enfin, je prends l'exemple de nous deux. On a quand même plus d'éducation à ce niveau-là que nos parents, nos grands-parents. Même, je vois aussi mes neveux et nièces. J'en ai déjà un petit peu parlé avec eux parce qu'ils sont ados et c'est vrai que ils sont plus conscients de ces choses-là que nous, on pouvait l'être à leur âge aussi.
Oui, c'est sûr, mais je veux dire, eux, c'est des acteurs, des actrices. Ils baignent dans un milieu où c'est
Oui.
impossible. Enfin, je veux dire, déjà, en temps normal, c'est impossible que vous ayez jamais croisé de gay ou de lesbienne. Sinon, bah, faut ouvrir un peu vos yeux, à mon avis. Franchement, il y a très peu de chances. Ou alors, vous vivez dans la forêt, je sais pas. Mais tu dis, eux, ils en ont forcément croisé aussi. Enfin, tu penses qu'ils sont d'une. Bon, après, tu me diras, vu leur soutien politique. Il y en a peut-être, ils ont un petit peu de mal. Bon, je te l'accorde.
C'est
Mais
fort
t'en as d'autres,
possible.
ils sont peut-être pas si. Enfin, je sais pas, une mentalité, ça se travaille, ça évolue.
Oui,
Enfin, je veux
bah
dire,
oui.
moi, je vois ma grand-mère, qui pourtant fait partie elle a 86 ans, hein. Elle fait partie pourtant d'une génération où ça se disait pas, ça se montrait pas, et qui, il y a quelques années, serait sûrement dans les premières à dire non, mais pourquoi vous montrez ça, c'est pas bien et tout. Et aujourd'hui, enfin, elle s'en fout. L'autre fois, on était ensemble, on discutait, et elle m'a dit, ah, oh, tu sais, lui, il est avec un copain et tout. Elle fait, bah moi, ça me dérange pas. Enfin, les gens, ils font bien ce qu'ils veulent, de toute
Non.
façon. Puis c'est pas, ça ne nous regarde pas. Et j'étais là en mode, yeah, c'est bien, mamie.
Ah, mais de toute façon, Mamie Jo, hein, voilà, elle
Tu
est
vois, même,
top.
tu sais.
Ah oui. Mais
Donc voilà. Hein.
c'est très bien que des gens s'éveillent à ça parce que on en a parlé en off aussi, mais en fait, j'ai regardé le film sur le site Ain't Too Zen, et sur le site Ain't Too Zen, vous pouvez laisser des commentaires. Donc les gens s'expriment, mais des fois on a envie de leur dire de fermer leur gueule. Et t'en as, mais c'est oh, genre en mode oui, mais attends, les enfants ils vont voir ça, c'est pas bien. Puis il y a plein de films maintenant sur les LGBT, comme si tous les humains étaient LGBT. Ah, je suis pas sûre que je vais laisser mes enfants regarder ça.
C'est contre
Enfin,
nature. C'est un truc d'occidentaux aussi.
ah oui, c'est un truc
C'est genre
d'occidentaux,
la
ouais.
menace occidentale, tu sais.
Attends, pour ceux qui comprennent l'anglais, parce que j'ai la flemme de traduire. Rubbish movie, rubbish script, do not watch it with family, inspired by rubbish thinking of Western culture, a normal person will hate this movie. Donc voilà, donc c'est un film mauvais, le script est nul, faut pas le regarder avec sa famille. Voilà, c'est inspiré de la culture de l'Ouest, une personne normale devrait haïr ce film.
Eh ouais. Après, je pense qu'effectivement, on est encore dans une période. Enfin, aujourd'hui, on parle quand même un peu plus. Et c'est vrai que je pense qu'on est encore dans la phase de déconstruction de la société, on va dire. Il y a des mentalités qui ont encore du mal à passer le cap, mais j'espère que ça ira mieux au fur et à mesure. Enfin, on le voit avec les nouvelles générations. Mais voilà, j'ai envie de te dire, si moi, ma grand-mère, elle a pu changer d'avis arriver en 2022, je pense que tout le monde peut changer d'avis avec un petit peu d'intelligence, de discussion, d'ouverture d'esprit, et voilà, quoi. Juste, et faire passer ça au cinéma, c'est un peu le début, je veux dire, c'est en rendant la chose normale, en la voyant de plus en plus, enfin, t'y fais plus attention au bout d'un moment, puis après, ça rentre dans le décor, et tu te dis, ah bah oui, tiens, là, on a un couple de femmes et pas un couple hétéro, bah, ok, enfin, normal. Bah, je veux dire, oui, comme aujourd'hui, plus personne te dira « Oh mon Dieu, t'as vu, c'est un couple métis. Elle est blanche, il est noir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, cette représentation et tout. » Bah, aujourd'hui, tu vois ça dans une série, tu fais « Ok, cool. Enfin, »
ouais, voilà, c'est un couple.
Next. Voilà.
C'est ça. C'est des gens.
Donc voilà, il faut bien passer par là jusqu'à ce que ça devienne banal. Donc bon, pour l'instant, c'est encore difficile pour certains, mais on y croit. Ça va le faire.
Oui, je précise aussi hein, que les commentaires que j'ai lus, ce ne sont pas forcément des personnes indiennes. Hein. T'as des personnes des USA, t'as même des gens français.
Ah, il y avait un français aussi, là.
Ouais, alors le français, il disait un truc du style « Ouais, bah ce genre de film, ça promeut le sida.
» Ah oui, oui d'ailleurs, petit point sida, oui. Rappelons aux gens déjà de se protéger, c'est important. Je rappelle donc que le sida n'est pas l'apanage des homos. Ça, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les derniers chiffres que je suis allée regarder, d'ailleurs, du site du SIDA, sur le SIDA, là, SIDAction, c'est, ouais, c'est ça le site. Bref, vous allez regarder sur le site qui recense tous les chiffres. Aujourd'hui, 50% des femmes qui ont le SIDA l'ont eu par des rapports hétéros.
Ah, quelle surprise!
Bah oui! Donc, je rappelle que oui, ce n'est pas l'apanage des couples homo, que non, on ne guérit pas du sida, puisque visiblement, il y a des gens qui pensent que maintenant, bah, de toute façon, c'est pas très grave, on en guérit. Non, on n'en guérit pas. C'était en 2020, il me semble qu'il y a eu 700 000 personnes qui sont mortes. Donc non, on n'en guérit pas.
Mais il y a des médicaments quand même maintenant qui te permettent aussi de vivre avec, quoi. Enfin, tout du moins dans les pays
un peu mieux. C'est ce qui t'explique. Mais après, surtout, par contre, tu vis avec un traitement à vie.
Oui, bah bien sûr.
Donc, oui. T'as quand même des séquelles, tu vivras moins longtemps. Oui, il y a des médicaments, mais t'en guéris pas, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas tenter ta chance, quoi.
Bah, mettez des capotes, les gens, c'est important.
Oui, y compris pour le sexe oral.
Oui, 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 aussi, parce que ça passe par là aussi. Donc, protéger les bouches, les trous, enfin, voilà, protéger tout.
Protéger vos muqueuses, Mélanie.
Oui, oui, ça rend mieux comme ça.
C'est un peu mieux. Ah là là. Bref, on a fini de faire nos petites, podcasteuses prévention. On a fini de vous donner toutes les infos du coup sur cette thématique et on va pouvoir s'écouter la chanson du film. Mélanie, ça fait quoi? Voilà, et on va pouvoir vous parler du film. À tout de suite. Film s'ouvre, nous sommes en pleine réunion de famille pour arranger le mariage de Shardul, donc qui est le fils prodigue, qui est donc policier.
Je t'interromps deux secondes, est-ce que tu as noté le nom de famille de Shardul?
Ah, c'est lui qui s'appelle Thakur? Non, c'est oui. Elle qui s'appelle Thakur.
Non, c'est lui qui s'appelle Thakur.
Et t'as pensé à Thakur de bras. Voilà. Évidemment, moi, je le savais.
On vous renvoie à notre épisode sur Cholet, pour la petite blague.
Et donc, Shardul, donc, c'est le policier typique des films Bollywood. Et ça, déjà, j'ai trouvé que c'était très intelligent de décider de faire un personnage comme ça, parce que bah, dans les films qui sont généralement à peine nationalistes, généralement, et qui sont pro-police, aime nous montrer le policier comme étant ultra viril, super bien gaulé, qui met des tarnioles qui te font voler jusqu'à la lune, et avec The Moustache, évidemment. Et donc, notre cher Shardul ne déroge pas à la règle. Il est vraiment genre le cousin de Ajay, Ranveer et Akshay, là, dans la trilogie des policiers. Sauf que du coup, ça va être un personnage gay, et ça, j'ai trouvé ça super malin de décider de détourner ce type de profil qui normalement est la caricature même de l'homme hétéro-viril pour en faire eh ben, le gars qui va être gay dans le film.
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce qui est très appréciable aussi dans ce film, c'est que ben, justement, les personnages ne sont pas stéréotypés, justement. Et c'est pas genre le personnage gay qui est efféminé à mort, la meuf ultra masculine et tout et tout. Et ouais, le fait que ça casse un petit peu les codes, enfin, que justement lui, il ait tous les codes de la virilité masculine telle qu'il faudrait les avoir pour l'homme hétéro, bah, je trouve que c'est plutôt chouette.
Oh, c'est super bien, ouais. On nous
Et il se
présente aussi.
kiffe, hein. Il se kiffe, hein.
Ah, mais nous aussi, on le
Il
kiffe,
admire ses pectoraux devant la glace et tout.
Écoute, il a le droit, hein. Il est bien gaulé.
Ah
Il peut.
oui.
Et donc, on nous présente aussi sa mère. Sa mère, je trouve, est aussi un personnage assez intéressant parce qu'on va jamais vraiment approfondir. Disons sa personnalité, mais on voit bien qu'elle est un peu, moi ce que j'ai appelé un peu
Indécise.
off. Un peu off. Et du coup, je sais pas si elle est d'une tendance soit de quelqu'un qui serait en dépression ou sous antidépresseur, ou si c'est juste une personne qui serait neuroatypique. Mais du coup, j'ai trouvé intéressant d'avoir cette représentation de personnage où tu sens que, j'ai pas envie de dire, elle est un peu différente, mais. Je sais pas comment dire. Je sais pas si elle représente peut-être quelqu'un de neuroatypique, mais j'ai trouvé ça appréciable en fait d'avoir cette mère-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas très
Oui,
peut-être pas très
bah,
clair ce que je dis.
ça change du stéréotype de la mère qui est hyper, comment dire, enfin qui est tout le temps sur le dos
Protectrice.
de son enfant, qui est hyper autoritaire, limite castratrice et tout ça. Mais alors, effectivement, enfin, moi je me suis plus dit que elle avait l'air défoncée en permanence.
C'est pour ça que je te dis que je sais pas si elle
Donc je
est
sais pas, ouais.
genre sous antidépresseur. Au début, je me suis
Bah
demandé s'ils allaient
peut-être,
développer une
oui.
histoire autour d'elle, parce qu'elle est veuve, elle est dans une famille qui est vachement anxiogène et tout, qui veut contrôler tout et tout le monde. Pour le coup, c'est plutôt justement la tante qui est comme ça, à vouloir tout contrôler,
Oh, la
tout
redoute.
diriger et tout. Et même à vouloir d'ailleurs diriger bah, cette mère-là, qui doit être sa sœur, j'imagine. Et du coup, c'est ça, je me suis dit, est-ce qu'ils vont à un moment développer ce personnage, dire que par exemple, elle a mal vécu d'être veuve, et du coup, elle a fait une dépression, elle est passée sous antidépresseur, et du coup, elle est un petit peu en off. Ou, à un moment donné, je me suis demandé aussi s'ils n'allaient pas développer un truc un peu concon. Enfin, parce que comme la famille est cliché, est forcément pleine de préjugés, je me suis demandé si à un moment donné, ils n'allaient pas dire, ah bah tu vois, c'est parce que ta mère. Elle est genre bah, neuroatypique ou autiste ou elle est pas normale, c'est comme ça qu'on a des enfants gays. Tu vois, qui ferait un truc un peu sur une famille qui aurait le cliché de penser que c'est héréditaire et qu'en gros, si t'as une mère pas normale, t'as un enfant pas normal, d'où le côté homosexualité qui serait une maladie.
Non, en fait, je pense que c'est plus une femme qui a toujours eu l'habitude qu'on prenne des décisions à sa place, enfin, que son mari prenne des décisions à sa place, puisque de toute façon, quand on lui demande son avis sur le mariage de son fils, elle dit « Ah, bah, je sais pas trop ce qu'en aurait pensé mon mari » et tout. Et donc, il y a une des tantines qui lui dit « Non, mais ton mari, il est mort, ok, donc là, c'est à toi de prendre la décision. » Et en fait, je pense qu'elle a pas eu l'habitude qu'on lui demande son avis avant la mort de son mari. Du coup, Elle est un peu paumée, ouais. Et puis moi, je pense plutôt qu'elle a dû
Parce
passer
qu'il
par
y a
une
plein
phase
de
de
fois, quand même, quand
dépression.
tu lui parles, t'as l'impression qu'elle est
Elle est ailleurs.
ailleurs.
Ah
T'as
ouais.
l'impression qu'elle a une détente qui est vachement longue. Il y a des fois des trucs qui percutent pas du tout. Il y a une vanne comme ça où, justement, à un moment donné, Soumi, elle lui dit, en fait, t'es comme ta mère, toi, on te dit des trucs. Parce que je crois qu'à un moment donné, Soumi, elle lui dit un truc du style, il n'arrive pas à tirer. Et c'est sa mère qui fait, mais tirer quoi? Et
Bah,
tu
il
te dis.
tira blanc, quoi.
tu dis waouh, ça a pas l'air de méga percuter là-haut, donc voilà. Mais bref.
J'ai noté un autre truc aussi dans la famille, c'est que donc Shardul, il a une sœur, et la sœur, bah, elle est pas très contente parce que elle a quand même eu moins de liberté pour son propre mariage. Elle est en mode, non mais attends, en fait, Shardul, limite, il peut se marier avec n'importe quelle meuf de n'importe quelle caste, alors que moi, il a absolument fallu quelqu'un de notre caste, j'ai pas vraiment le choix. Enfin, en gros, vous avez vu le mari que vous m'avez donné, enfin, super quoi, c'était de la merde. Et c'est là qu'on voit encore les inégalités aussi entre les frères et les sœurs. Ah bah toi t'es une femme, donc toi t'as moins le choix. Bon, toi t'es un mec, tu peux rester célibataire un peu plus longtemps si tu veux, et t'as le choix quoi.
Oui, d'ailleurs, on va avoir ce même parallèle dans la famille de Soumi, où il y a totalement une différence de traitement entre elle et son frère, où à son
Ouais.
frère, on lui accorde tout, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, on lui paye les études qu'il veut, il joue au football H24, et en plus, il est nul, mais tout le monde va le soutenir parce qu'en gros, c'est
On
le
lui fait
garçon de
des
la
faux
famille, alors que
certificats.
Soumi, on va pas arrêter de lui dire, bah, marie-toi, soutiens-nous, et puis pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'es pas comme tout le monde.
Sois plus
D'ailleurs, on le voit dès le
féminine.
début, sa mère, elle fait un vœu de silence parce qu'elle aime pas bah, justement tout ce que représente Soumi, toute son attitude, le fait qu'elle soit prof de sport et pas prof de maths ou prof de littérature. On voit aussi qu'elle lui tend des vêtements traditionnels et qu'elle a le seum parce que sa fille s'habille de façon moderne. Et là, c'est pareil, tu vois là, totalement la différence de traitement entre elle et son frère.
C'est ça. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, quand t'es prof de sport, c'est plus pratique d'avoir un survêt Adidas que de mettre un sari, quoi.
Bah ouais, carrément!
Mais
Mais tu
ouais, non.
vois, c'est vraiment l'air de dire, ah mais dans la rue, tu
Stéphane.
pourrais quand même t'habiller comme tout le monde, enfin comme toutes les femmes, dignes
Non.
de ce nom, et te mettre en survêt que au moment de faire ton cours de sport, quoi. Mais bon, on voit bien que c'est Sam. En plus, dans les deux familles, on voit bien que c'est. On l'avait déjà montré dans d'autres films, que la pression se fait surtout par les femmes. C'est-à-dire qu'elles ont tellement intégré tout le sexisme ambiant, toute la misogynie et tous les codes qu'on leur a imposés, que c'est les plus farouches à les réimposer sur la génération d'après.
C'est
Là, c'est
exactement
la
ça.
mère de Soumi, la plus rigide là-dessus. C'est genre, ma fille, tu dois être comme ci, comme ça, parce que la société attend que tu sois comme ci, comme ci, comme ça, alors qu'elle-même a souffert de toutes ces injonctions.
Bah oui, mais c'est un peu triste, quoi. Mais elle est horrible, sa mère, moi je trouve, franchement, enfin, elle est insupportable. En fait, il n'y a que son père qui est un peu cool avec elle. Et puis même Soumi, elle va voir son père, elle lui dit non mais franchement, en gros, tu veux pas quitter maman et tout ça parce qu'elle est vraiment hyper chiante. Enfin, et tu sens qu'il n'y a pas d'amour mère-fille. C'est triste, c'est d'une tristesse.
Donc Soumi, elle cherche une meuf sur Tinder, en gros, voilà. Donc très rapidement, on comprend donc que Soumi est lesbienne, et ensuite et que en fait donc sa famille cherche absolument à la caser, et elle va bousiller toutes les tentatives, notamment avec une pseudo-histoire que un jour elle a été fiancée, le mec est mort, donc elle est
Non, ça c'est
maudite, mais
vrai,
ça y a
ça.
même pas de.
C'est la vérité,
Oui,
ça,
oui.
mais.
Oui, mais que en gros elle est maudite, surtout vous approchez pas.
Ouais, et d'ailleurs, donc il y a ça, une de ses tantes ou je ne sais qui vient la voir à son boulot avec une femme qui lui dit, bah voilà, je t'ai peut-être trouvé un mari, ça c'est la maman peut-être de ton futur mari. Et t'as la meuf qui dit, ah, mais elle est quand même vachement plus foncée que sur les photos et tout ça. Là, t'as la tontine qui attrape Soumi, qui lui défait son survêtement. Oh, non, mais tu sais, regarde à la poitrine comme elle est claire, c'est juste qu'elle est restée dehors, qu'elle a pris un petit peu le soleil. Et là, c'est pareil, t'as encore la pression sur la couleur de la peau. Mais c'est horrible, genre, ah bah non, attends, je vais pas la prendre pour mon fils, elle a la peau trop foncée.
Bah ouais. Et donc ce que l'on sait principalement donc de Soumi, c'est qu'elle veut prendre son indépendance très loin de tout ça, qu'elle a eu une ex qui s'appelle Komal, qui elle a fini par céder en fait à la pression de la société et finalement s'est rangée, s'est mariée, a eu une fille, n'a jamais vraiment oublié Soumi, mais Soumi elle lui dit bah meuf écoute t'as cédé, on n'est plus ensemble, c'est la fin de l'histoire.
C'est ça.
Et de l'autre côté, pour Shardul, ce qu'on voit, c'est plutôt la pression effectivement de la société. Donc lui, il est dans ce milieu de la police qui passe ses journées justement à traquer les éventuels homos qui seraient cachés dans des buissons.
Il travaille à la section des femmes aussi, hein, à la police, hein, quand même.
Oui, oui, et puis il voudrait muter. Et ce qui est intéressant dans cette espèce de traque des homos dans les buissons, c'est que justement, à un moment donné, t'as une policière qui fait « Ah, chef, on a trouvé des lesbiennes !» Et en fait, tu vois deux gars, et tu te dis, mine de rien, c'est cette réplique, elle est là pour te montrer que le sujet est tellement tabou et tellement mal maîtrisé que les gens connaissent même pas le vocabulaire. Ils arrivent même pas à dire si c'est des homos, des gays ou des lesbiennes. Et c'est le collègue d'à côté qui fait « Mais non, on lit pas des lesbiennes, on lit des gays, des homos !» Et tu te dis « Waouh, ok !»
Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient en train de traquer, comme tu dis, des homos et des lesbiennes, parce qu'à un moment, ils attrapent un mec, un jeune homme, qui s'était enfui après avoir proposé un date ou après avoir épousé une meuf, justement. En fait, j'ai l'impression qu'ils attrapent des jeunes qui, comment dire, qui sont pas vraiment dans le droit chemin et qui font un petit peu de la merde, quoi.
Oui, non, ce que je veux dire, c'est pas leur mission principale, oui. Encore heureux, la police, t'as pas une section recherche homo, c'est juste que dans leur ronde, quitte à arrêter des gens, dès qu'ils tombent sur des couples homo, ils vont notamment le dire haut et fort en disant « Hey, t'as vu, on a trouvé des homos cachés dans un buisson !»
Ouais, et du coup, Shardul, il va dire « Non, mais laissez-les partir, hein, c'est pas grave, laissez-les. »
Et donc là, on arrive à un moment très triste qui est le piège Tinder.
Oh mon Dieu, quelle horreur. En fait, donc Soumi match avec une meuf, et papote, ça se passe bien. Et la meuf lui dit, écoute, si tu veux, on peut se retrouver dans un bar, ça me ferait trop plaisir de te rencontrer en vrai. Donc Soumi est toute contente, elle va au bar, personne n'arrive. Et tout d'un coup, un mec se lève, vient la voir. Elle lui dit, non mais dégage, j'ai rancard. Et le mec dit, ouais, bah t'as rancard avec moi. Et en fait, on comprend que le type est un immonde connard. Il va harceler Soumi pour essayer, entre guillemets, de la convertir. Il veut coucher avec... il veut absolument coucher avec elle. Et si elle veut pas, il va menacer de révéler son homosexualité à tout le monde.
Voilà, c'est un connard qui a le fantasme de se faire une lesbienne, quoi.
C'est ça.
Le fameux « Eh, mais t'as déjà essayé les hommes ?»
Ouais, ou alors, c'est parce que t'as pas trouvé le bon, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir.
Donc du coup, Soumi, elle va aller porter plainte auprès de Shardul, il va arrêter le gars, et en fait, via cette histoire, il va découvrir que Soumi est lesbienne, et là, ça fait ting dans sa tête, il se dit, oh, attends, l'idée, l'occasion est trop belle, il va se rapprocher d'elle, donc au départ, elle se dit, oh putain, encore un relou qui vient me stalker. Et il lui dit à demi-mot, voilà, écoute, t'es lesbienne, je suis gay, viens, on fait un mariage lavande, donc un mariage de façade, comme ça, pif paf pouf, on est tranquille.
Et tout le monde nous foutra la paix. Donc elle accepte, et du coup là c'est le mariage avec la fameuse chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Elle est très cool.
Et là j'étais choquée, j'ai regardé le temps, je fais 26 minutes, c'est déjà le mariage. Mais et je me suis dit, mais attends, mais...
Et qu'est-ce qui va se passer après?
Il va se passer quoi dans les deux heures d'après? Franchement, j'ai paniqué. Hein.
Merde, pardon, je vais tout. Et c'est l'heure du voyage de noces. Alors, ils prennent deux chambres, hein, bien évidemment. Et tu vois que Soumi fait un petit peu les choses de son côté parce que Shardul, il n'a pas trop envie de sortir et surtout lui dit écoute, moi je reste à l'hôtel puisqu'il y a mon mec Kabir qui va venir me rejoindre. Et on va comprendre aussi que Shardul a un petit problème d'alcool hein, parce que Kabir est en retard du coup.
Léger.
Shardul se met une grosse race tout seul.
Tout ça parce que son mec a 24 heures de retard.
C'est ça, et donc t'as un petit moment
gênant. Il est pas là, il est pas venu, qu'est-ce qui se passe et tout. Le lendemain, l'autre, il fait ting-ling, je suis là. Il fait, ah bah non, c'est bon, il est là.
C'est ça, ça va mieux, voilà. Et voilà, puis on apprend...
Et c'est l'heure de la chanson romantique.
Oui, et on apprend juste à l'occasion que Shardul voulait être Mister India et que c'est pour ça qu'il est musclé comme ça et qu'il a peur que la police sache qu'il est gay. Et donc oui, petite chanson romantique entre les deux amants. Et je les ai trouvés trop mignons en vrai tous les deux.
Ouais. Bah là, je me suis dit, ok, donc on va avoir droit aux fameuses chansons romantiques. On aura la première sur le couple gay masculin, et puis à tous les coups, un peu plus tard, on aura la version féminine. Donc c'est pas plus mal parce que c'est enfin quand même pour la commune LGBT d'avoir droit, elle aussi, à ces grandes chansons romantiques, toutes douces. Ils sont mignons, ils se baladent,
Mais
ils sont trop
oui.
choux. Donc je me suis dit, ah, ça y est, c'est la première chanson romantique.
Et là, c'est le retour de la lune de miel et la douche froide. Donc, ils sont obligés d'emménager ensemble dans un appart assez éloigné du centre-ville. Parce que Shardul lui dit, non mais comme ça, on est tranquille, Kabir, il peut venir. Puis voilà, personne nous connaît. Ça le fait. Et Shardul, on va dire que là, il révèle un petit peu plus sa vraie personnalité. Parce que avant, il était plutôt sympa. Mais là, il est hyper sec et froid. Genre, comme si c'était de la faute de Soumi, je le trouve méchant avec elle.
Mais de toute façon, moi j'ai un problème avec leur relation. En fait, j'y reviendrai sûrement à la fin, mais au départ, vu le style de film, vu comment c'est amené, vu qu'à 26 minutes on a déjà le mariage et tout, et qu'on va se taper 2 heures de leur vie de faux couple, moi je m'étais dit, bon, dans une logique un peu classique, ils vont nous faire style qu'ils deviennent best friends. C'est-à-dire que du coup, entre eux va se nouer une belle amitié, et du coup, ce seront des bons colocs, des bons amis qui partagent cette fausse vie ensemble, et du coup, ils vont se soutenir parce que tous les deux, ils cachent finalement le même secret. Et en fait, pas du tout. Il y a une vision hyper réaliste qui est choisie, qui est que, bah, en fait, ils se connaissent pas, ils n'ont pas les mêmes personnalités, et en fait, en vrai, t'as l'impression qu'ils peuvent pas vraiment se blairer. Ils sont obligés de se tenir compagnie parce que c'est la façade qui veut, mais en fait, ils sont pas compatibles. Et si d'un côté, je suis assez contente de cette vision réaliste parce que bah, dans la vraie vie,
Oui.
c'est vrai que si on dit bah, tu te mets avec machin, tu sais pas si t'es compatible, ça se trouve, tu vas pas du tout le supporter. Surtout qu'on va vite voir que Shardul, bah, ça reste un homme et donc il a évolué dans un milieu patriarcal et du coup, il a toutes les caractéristiques d'un homme qui a grandi dans cette société. Donc il a des réflexes un petit peu d'homme un peu macho quand même. Et du coup, c'est réaliste et en même temps moi du coup ça m'a un peu éloignée parce que j'avais envie qu'ils soutiennent sauf qu'en fait ils
Ah.
soutiennent pas du tout
Ouais, mais
et du
ça
coup
aurait
j'étais
fait
là
trop
mais je
cliché,
sais
quoi.
pas devenez amis quand même
Oui, mais ça
c'est
vient plus
réaliste mais du coup
tard.
ça m'a mis un peu à l'écart.
Ouais, mais moi, d'un côté, je préfère quand même que ce soit comme ça, tu vois, qu'ils s'entendent pas forcément, parce que sinon, je pense que ça aurait fait beaucoup trop cliché, en mode, ah, on est toutes les deux de la même communauté LGBTQ, bah, du coup, on va devenir BFF. Bah ouais, mais en fait, ça marche pas comme ça dans la vraie vie, hein. C'est pas parce que tu fais partie
Ouais,
du même
je
truc que
suis
t'es obligé d'être
d'accord.
pote, quoi.
Non, je suis d'accord. Honnêtement, oui, j'aurais pas aimé non plus que ce soit mal. Hi, viens, on se tient par la main et on va courir dans les prés. Mais j'aurais quand même aimé qu'ils montrent l'un envers l'autre un minimum de soutien et d'affection. Parce que plusieurs fois dans le film, notamment je trouve du côté de Shardul, tu sens qu'il y a des moments où il se sent un peu seul, il a besoin d'un peu de soutien et il se rapproche de Soumi. Et elle, vraiment, c'est un bloc de glace, tu vois. Et j'ai envie de dire, franchement, tu veux pas lui mettre une petite tape un peu sur l'épaule quand même? Meuf, t'es super froide. Alors, c'est réaliste, mais du coup, des fois, j'avais un peu de peine pour eux quand même.
Ouais. Soumi va emmener son papa chez le médecin et elle va devoir emmener un échantillon de son caca dans un laboratoire. Et là, elle va croiser le regard d'une petite laborantine mignonne et ça va être un petit peu le coup de foudre. Elle va retourner plus tard au laboratoire en demandant à faire une prise de sang. Et là, on a droit à la prise de sang la plus sexy du monde.
Mais je te jure, déjà, je trouve ça assez marrant de dire que ils ont réussi à créer une rencontre autour d'une boîte remplie de caca.
Oui.
Je veux dire, ça casse tellement le côté très sucré, très classique des rencontres amoureuses. C'est assez pas mal. Mais vraiment, cette scène presque sensuelle de prise de sang, je me suis dit, mais attends, j'ai jamais vu une prise de sang aussi sexy.
Alors,
C'est un truc de fou. Alors moi,
moi, ça se passe
bizarrement,
pas
quand je
comme
vais faire
ça,
une
hein.
prise de sang, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Moi, on me caresse pas le bras et tout, on me regarde pas comme ça dans le blanc des yeux. Asseyez-vous, c'était quand vos dernières règles? Alors pourquoi vous êtes là?
C'est ça. Allez, remontez votre manche. Voilà, je vous mets.
Non, pas seul. Ah non, la veine n'est pas assez grosse. Faites voir l'autre bras. Ouais, on va faire celui-là.
Appuyez bien fort, je vais prendre un petit pansement. Non, moi non plus, j'ai jamais eu ça. Bah, On va pas dans les bons laboratoires, apparemment.
Ouais, je crois aussi. Bon, en même temps, ce labo-là, je voudrais pas dire, c'est un peu McDo. Oui, vous voulez faire quoi comme examen aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a comme examen pas cher? Ah bah, vous avez celui-là. Bon, bah, je vais faire celui-là, alors. Non, mais oh, vous êtes où, là?
C'est à la carte.
Et donc... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Les plaquettes ou la glycémie?
Et donc, la petite laborantine, et donc, elle s'appelle Rinjin. Et, c'est important de souligner aussi que c'est qu'elle vient sûrement de la même communauté que Maricom, c'est Manipur, enfin c'est le nord de l'Inde, donc c'est les personnes qui ont les yeux bridés.
Oui, effectivement, elle a des traits plutôt du nord-est.
Voilà, donc c'est cool, on n'en voit pas beaucoup, donc j'ai trouvé ça chouette.
Et donc, elle va ça fait du bien, un peu de représentation dans les films, quoi.
Elle va lui proposer un petit date, et Soumi, j'aime bien parce qu'elle est cash direct, et lui dit la vérité sur son mariage, et dit, bah voilà, c'est un mariage arrangé, lui, il est gay, moi, je suis lesbienne, voilà. Rinjin va lui parler de ses parents, elle va lui dire, bah mes parents, ils me parlent plus, je pensais que ma sœur allait me soutenir un peu, bah résultat, elle veut pas que j'approche ma nièce. Et Soumi va lui dire un truc, et va lui dire, bah en fait, quand on est différent, ils pensent qu'on est des pervers. Voilà.
Bah, c'est un peu c'est vrai, hein, l'image qui traîne encore dans certains milieux, c'est de penser que les homos, bah, c'est des pervers.
Mais ouais.
Globalement. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce qui ressort là du fameux Don't Say Gay, où t'as l'impression que parler d'homosexualité, c'est comme si on allait dire aux enfants d'être pervers, ou qu'on allait leur parler de cul, ou de position sexuelle, ou de relations, je sais pas. Alors qu'on pourrait juste leur dire, c'est des gens qui sont amoureux. Enfin, je veux dire. Sur les couples hétéros, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est biberonné au Disney, aux histoires d'amour. Et ton prince, il va venir, il va t'embrasser et tout et tout. Du coup, pourquoi tout de suite, dès qu'on décide de parler d'homosexualité, on voit ça comme si, c'est des relations, c'est du sexe, c'est du cul, c'est de la maladie? Bah non, c'est la même chose. Pourquoi vous parlez pas juste de quelqu'un qui va venir, l'amour, se tenir par la main, je sais pas.
Mais moi, surtout, en plus, plus tôt tu éduqueras les enfants et plus vite ils seront tolérants, et peut-être que plus tôt certains enfants réaliseront que eux aussi ils sont gays, bi, pansexuels, et que c'est normal et que c'est ok, et que ça leur évitera de la souffrance plus tard, quoi.
Bah c'est clair, bah oui évidemment.
Mais en fait t'as l'impression, enfin je pense que t'as des gens qui sont tellement conservateurs que si tu parles de relations homosexuelles ou bisexuelles à des enfants, les enfants vont le devenir automatiquement, quoi. Et quand bien même...
Non mais c'est ça, on sait jamais, peut-être que ça appuierait sur un bouton qui fait c'est un switch, ça. Tu sais. Alors que tant que tu le dis pas, ça n'existe pas.
Et quand bien même il le deviendrait, bah c'est pas grave. Parce qu'en plus on t'abreuve d'hétérosexualité en permanence... Et bah, ça n'empêche pas que certaines personnes, à l'adolescence ou à l'âge adulte, elles fassent un coming out, alors que depuis petite, elles baignent dans l'hétérosexualité. Donc voilà, c'est pas parce
que... Non, mais il ne faut pas chercher de logique. Hein,
c'est pas parce qu'on te parle d'hétérosexualité en permanence que tu vas forcément être hétéro, quoi.
Bah, la preuve, hein, c'est pas parce qu'on va te parler d'être végétarien que tout le monde va devenir végétarien. Donc calmez-vous, les gars.
Voilà, voilà. Bon.
Bref, en attendant, Shardul, eh ben, petit problème, il découvre qu'en fait, on lui change son logement. En fait, c'était sur la demande du coup de sa tante, hein, c'est ça, je crois, qui s'est rencardé auprès de la police en mode « Eh ben, ce serait bien qu'il ait un logement de fonction, comme ça il le paye pas, tu vois ». Et donc, pas de bol, il se fait du coup... entre guillemets muté, on lui propose un logement de fonction, donc ils vont devoir déménager et résider en plein cœur du quartier policier. Autant dire que les gars sont en sueur, parce qu'alors là, pour cacher leur petit rendez-vous secret, ça devient un peu tendax.
C'est ça.
Vas-y.
Mais un soir, donc, le supérieur de Shardul vient chez eux avec sa femme, et c'est là que Shardul... pousse le bouton macho man, puisqu'il va parler comme une merde à Soumi en lui disant « Eh, va chercher le thé, va chercher la bouffe, va chercher ci, va chercher ça. » Elle est en mode « Bah, tu vas aller te faire voir, en fait. » Et en gros, tu sens que le gars, il fait ça juste pour faire illusion, vraiment en mode « Bah attends, c'est comme ça qu'un mari doit parler à sa femme, d'après ce que je sais, donc je te parle comme ça pour que personne ne soupçonne que je suis gay, quoi. » Mais elle se laisse pas faire non plus. Elle lui dit, bah ok, mais de toute façon, c'est toi qui feras toutes les corvées si je me plie à ton petit manège.
Voilà, encore une fois, tout est une histoire de parade et on sent qu'en fait, il baigne dans un milieu tellement viril qu'il est obligé de surjouer la virilité et le patriarcat, quoi, en gros, pour être, selon lui, ce qui est crédible. Ce qui a l'air de plutôt bien marcher quand même sur son supérieur qui est en mode « c'est ça, les bonnes femmes à la cuisine hein !» Bref. Donc voilà, on voit bien dans quel milieu il baigne. Sauf que il a donc une fausse épouse qui est pas trop dans ce délire et qui a la super bonne idée de dire bah tiens, je vais installer ma meuf à la maison et on va dire à tout le monde que c'est ma cousine. Et en vrai, j'ai vu le move, je fais mais franchement, t'as pas peur quand même. Enfin, Soumi, en plus elle le prévient pas, tu te dis t'aurais pu quand même lui demander, en discuter. Bon, il aurait peut-être pas été d'accord, mais ouais. Moi je trouve ça un peu osé. De vouloir quand même caser sa romance à la maison alors qu'ils sont, on le devine bien, dans un environnement où tout le monde scrute tout le monde.
C'est ça. Juste avant, on a eu leur petite chanson à elles deux aussi et j'ai noté qu'elles étaient trop mignonnes. Mais Soumi a dit à Rim, bah, en gros, installe-toi, fais tes bagages et tout. Mais j'avoue qu'en plus, même Rim, j'imagine qu'elle doit vivre toute seule, tranquillement. Donc, franchement, quand ta meuf, elle dit « Ouais, tu veux pas venir vivre avec moi et mon faux mari dans notre petit appartement de fonction de la police ?» J'aurais pas dit oui, moi. C'est beau, l'amour.
Bah non, c'est clair.
Mais franchement, ça fait pas rêver. C'est... Voilà.
Ouais, non, non. Mais d'ailleurs, la lune de miel va pas durer très longtemps, puisqu'au bout d'un moment, bon, Rim Jim, elle commence à plus trop supporter toute cette sérénade, ça lui pèse un petit peu, donc on a un petit peu la première dispute de couple entre elles deux. Et de l'autre côté, c'est la crise aussi, puisque Shardul, il pense que son gars Kabir le trompe, et donc il devient violent avec lui. Et là aussi, c'est intéressant de montrer que bah, les violences, en fait, elles existent dans tous les couples. En fait, il n'y a pas de différence entre des couples hétéros et des couples homos. C'est les mêmes dynamiques. Je veux dire, si t'as grandi dans un environnement violent et de patriarcat, eh ben, c'est pas parce que t'es homo que tu vas y échapper. Et donc, les violences conjugales, bah, ça fonctionne aussi dans les couples homos. Et c'est ce qu'on voit, notamment, entre Shardul et Kabir. Kabir qui s'en prend plein la gueule. À tort ou à raison, peu importe, il n'a pas à se faire taper dessus par Shardul.
Ouais, voilà. Après, tu vois, d'un côté, j'ai bien d'un côté, on peut comprendre Shardul parce qu'en fait, il était en train de faire des plans avec son mec et en fait, il grille que son mec, en fait, en a rien à foutre et qu'il le trompe. Je peux comprendre sa colère, mais ça n'excuse effectivement en rien la violence dont il fait preuve, quoi.
Et en plus, t'as Soumi qui le soutient, mais pas vraiment, tu vois, c'est-à-dire qu'il est, bah, il est vraiment triste.
Elle sait pas vraiment ce qui s'est
passé.
Ouais,
mais tu vois, il est pas bien, tu sens qu'il essaie de trouver un petit peu une épaule sur laquelle pleurer. Et elle est vraiment en mode, ouais, bah écoute, je te mets une petite tape sur l'épaule. Enfin, on voit bien qu'en gros, c'est pas son pote, mais du coup, ça fait un peu de peine aussi. J'étais vraiment entre deux sentiments, entre le « oh oui, c'est réaliste, après tout, c'est ça la vraie vie », et en même temps le « oh mais j'aimerais bien quand même qu'elle le soutienne un petit peu, quoi », même s'il a été un vrai connard 3 minutes avant.
C'est ça. On a appris aussi entre-temps que l'un des rêves de Soumi, c'est d'avoir un enfant, parce qu'elle reparle de son ex avec Rim, elle lui dit « oh tu sais, la fille que mon ex avait eue, j'avais considérée un petit peu comme ma fille aussi, mais maintenant je peux plus la voir, donc je suis très triste, j'aimerais bien avoir un bébé. » Rim, elle lui dit « ah ouais, ce serait trop cool qu'on ait un bébé ensemble. » Et ça tombe bien, puisque Soumi et Shardul vont aller fêter Diwali dans la famille de Shardul. Et la famille, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle met la pression pour qu'il y ait un bébé, en mode « oui, mais ça va faire un an que vous êtes mariés, comment ça se fait que t'es toujours pas enceinte, et c'est pas normal, et gna 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 ».
Les relous!
C'est ça, donc les deux, ils vont se disputer. Le beau-frère va en reparler à Shardul en disant « oui, tu sais, moi je suis docteur et tout, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, donc
Shardul... » Ouais, il est docteur en homéopathie,
ah, oui.
Hein.
Shardul, qui sait pas trop... qui sait pas trop comment s'en sortir, va lui dire « voilà... tu le dis à personne, hein. Mais en fait, Soumi, elle est stérile. » Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On comprend que le beau-frère, il a cafeté à tout le monde, puisque toutes les tantines, les belles-sœurs, elles emmènent Soumi chez le médecin pour faire un petit test d'urine pour voir s'il est vraiment stérile. Donc moi, j'ai noté, mais de quoi je me mêle? Bordel.
Mais tout est comme ça. S'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui sont ensemble depuis longtemps, qui sont mariés ou quoi, pitié, mais débarquez pas avec vos questions de merde. Hey, c'est pour quand les enfants? Parce que vous savez pas. Peut-être qu'ils en veulent pas. Peut-être qu'ils peuvent pas en avoir. Foutez la paix aux gens. Leur demandez pas. Ça vous viendrait pas à l'idée de leur dire. Et c'est quand que t'as un chien? Et c'est quand que t'achètes un micro-ondes? Bah, tu leur demandes pas. C'est quand que t'as envie de faire un enfant, quoi. Putain. Laissez les gens tranquilles.
Est-ce que je peux glisser une anecdote?
Vas-y. Voilà. On aime les anecdotes.
Voilà. Il y a 2 semaines, j'avais un mariage de potes de mon copain, et bon, que j'aime bien aussi, que j'apprécie beaucoup. Donc, on est allé les aider le vendredi à tout préparer. Et il y avait les parents du marié qui étaient là. Et à un moment, ça commence à parler de gosses. Et ils nous disent « Ah, mais vous êtes ensemble tous les deux ?» Je fais « Bah ouais, on est ensemble. » Alors, les enfants, c'est pour quand? Pardon. On ne se connaît pas. Voilà. On s'est dit bonjour.
Et quand bien même voilà. On se connaîtrait.
Mais non. Voilà, en mode. Moi, j'ai dit non, mais si, on a 2 filles, 2 chattes, voilà. Et, mais voilà, genre en mode. Ah, mais si, faut en faire, c'est bien, les enfants, c'est important, faut en faire, gna gna gna. Et quand on les a revus le lendemain du mariage, parce qu'il y avait eu un brunch, la mère du marié nous a sorti. Bon, bah, bientôt, hein, peut-être qu'on se reverra bah, pour une naissance, que ce soit de votre côté ou du côté de mon fils. Et j'étais en mode. Bah non. 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 Alors de toute façon, déjà, même si on avait des enfants, bah je vois pas pourquoi est-ce que je te reverrais, madame, parce que tu n'es pas de ma famille et que voilà. Et mais en fait, qu'est-ce que tu captes pas quand les gens te disent qu'ils ne veulent pas d'enfants? Vraiment.
Mais surtout, j'aime bien l'argument. C'est bien, les enfants. Merci, super argument, ouais, vraiment.
Enfin, je sais plus ce qu'ils nous avaient
non,
dit.
Non, mais c'est bien, mais... tu vois, ça occupe.
Mais genre les deux, tu as les deux parents qui étaient en mode « Non mais si, faut en faire, c'est important, voilà, c'est beau et tout, gna gna gna, c'est formidable. Enfin, » mais non, mais en fait, mais arrêtez d'insister auprès des gens pour qu'ils aient des enfants. Surtout des gens que vous ne connaissez pas, en fait. Enfin, c'est incroyable, j'ai juste envie de dire « Mais mêlez-vous de votre cul, s'il vous plaît. » Enfin...
Non, mais c'est vraiment un réflexe un peu débile parce que... Déjà, c'est très intrusif. Déjà, tu sais pas si ça appuie sur quelque chose qui peut faire extrêmement mal. Tu sais pas si la personne essaye mais n'y arrive pas. Tu sais pas si elle ne pourra ne jamais en faire. Tu sais pas si elle a enchaîné des fausses couches. Tu sais pas si elle a vécu des traumatismes. Et puis même, tu sais pas si cette personne, tout simplement, pourrait être un bon parent. Si c'est pas quelqu'un qui pourrait battre son enfant ou qui a des problèmes, je sais pas, d'alcoolisme ou de drogue. Enfin, je veux dire, t'en sais rien. Comment vous pouvez réclamer à n'importe qui de faire des gosses ou savez pas dans quoi vous embarquez cette future créature.
Mais exactement, et c'est hyper énervant quoi, c'est ce genre de personne, mais j'ai juste envie de leur dire mais ta gueule, vraiment ta gueule. Ou alors la prochaine fois que quelqu'un vient m'en parler, je réplique en disant mais toi pourquoi tu fais des enfants? Mais franchement, t'as pas honte de faire des enfants avec la guerre, la crise climatique, franchement la politique en ce moment, mais faire des enfants, mais c'est complètement insensé, mais pourquoi t'as fait des enfants? Mais rien, franchement, moi je partirais là-dessus la prochaine fois, je crois. Enfin, c'est...
Non, mais c'est vraiment. Et le pire, c'est. Enfin. Tu te dis, déjà, c'est limite avec des gens que tu connais, mais genre des gens que tu connais pas. Mais en fait, c'est vraiment. Je comprends même pas comment les gens peuvent ne pas trouver ça déplacé. Enfin, je veux dire. Tu connais pas la personne, ça ne viendrait pas à l'idée de lui dire et alors, c'était quand ton dernier examen de la prostate? Et alors, tu gagnes combien sur ta fiche d'impôt? Et alors, enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça où tout le monde va te dire ah bah non, oh, c'est privé, mais elle est pas bien celle-là de me poser cette
mais
question.
Oui.
Pourquoi tu demandes ça alors? Pourquoi tu lui demandes ce que les gens font de leur sexe? Franchement, voilà. S'ils cherchent à procréer, non mais oh.
Mais voilà, donc forcément, bah, on est un couple hétéro, on a la trentaine, bah, ça y est, bah, faut faire des enfants. Hein. Enfin, même mes parents, hein, de temps en temps, gna gna gna, des petits-enfants. Putain, c'est bon, on en est déjà 5, foutez-moi la paix, quoi. Faut pas compter sur moi. Genre, ah, mais tu veux pas nous faire plaisir? Mais je vais pas faire un enfant pour faire plaisir à quelqu'un. Au secours.
En plus, c'est un engagement sur tellement longtemps. C'est quoi cet argument? C'est comme si on disait, tu veux pas acheter une maison à 2 millions? C'est pour nous faire plaisir.
Mais ouais.
Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ces phrases?
Mais moi, j'ai mes 2 filles à poil et ça me suffit, quoi.
Ah, c'est très bizarre, non, mais... comme ça. Hors contexte, Mélanie. On peut t'arrêter. Non, mais... On peut t'arrêter.
Non, mais je parle de mes chats, ok. L'animal, voilà. Non, mais à poil, enfin, les animaux, ça a des poils, voilà. Enfin, oh merde, voilà.
Juste pour revenir sur le film,
oui.
Quelque chose d'intéressant aussi, c'est de voir que, bah, comme je vous l'ai dit, en fait, Shardul, c'est pas parce qu'il est gay qu'il échappe à l'environnement dans lequel il a grandi. Et son premier réflexe, c'est quoi ? C'est de protéger sa virilité et d'accuser direct Soumi d'être celle qui est en gros stérile.
Mais ouais.
Et bizarrement, tout le monde part direct sur le sujet en se disant « Ah non, non, il faut pas qu'elle le soit, vite on l'emmène chez le docteur et tout. » Limite, on lui dit que c'est pas de sa faute. Et quand les examens faisant, elle va montrer que c'est pas elle le souci et qu'ils vont se mettre d'accord pour trafiquer un résultat pour dire que ce sera en fait Shardul qui est stérile, bah, tu sens que lui, ça le fait chier, mais ça touche à sa virilité, nanana.
Oh non,
et quand c'est lui, et quand c'est lui qui dit qu'il peut pas avoir d'enfant, là, on te dit pas genre, oh non, non, faut aller chez le médecin, oh non, non, c'est pas bien, c'est de ta faute, c'est tout le monde. Oh mon Dieu, le drame
national,
rendez-vous compte, cet homme n'est pas totalement viril, le pauvre. Tu sais, c'est limite s'ils ont perdu la guerre, c'est tu vois, ça. Contre le Pakistan, c'est genre, oh mon Dieu, c'est... Oh, pauvre chéri, non, ne lui parlez pas, le pauvre petit et tout. Alors que quand c'est une nana, c'est genre, mais celle-là, t'aurais mieux fait de pas la prendre.
C'est exactement ça. Enfin bref, vu que les résultats sont normaux, ils ne comprennent pas pourquoi Soumi n'est pas enceinte. Alors la tantine, elle va dire à la maman, eh ben tu vas aller chez eux et les espionner pour voir un petit peu leur vie conjugale et comprendre ce qui va pas. Sauf que, il y a encore Rimjin qui est chez eux, donc... ils n'arrivent pas à la joindre et c'est une catastrophe. Donc, quand ils arrivent à la joindre, ils disent « Faut que tu dégages de chez nous, vite, parce qu'il y a la maman qui arrive. Et si elle comprend que tu vis avec nous, ça va être un petit peu compliqué. » Et donc, la maman, une fois arrivée à l'appartement, espionne un petit peu le couple. Elle voit que Shardul, il dort sur le canapé et pas avec Soumi. Et donc, la tantine, elle lui dit « Non, mais faut que tu interviennes. Allez, tu notes ce que je vais te dire et tu vas dire tout ça à Soumi. »
Et donc, c'est limite la sexologue, tu
mais
sais.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple ? Vous devriez dormir ensemble. Déjà, c'est une bonne initiative pour procréer.
Alors, déjà, tu dois faire ça. Il faut que tu sois sexy. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça et tout.
Oui, parce qu'évidemment, les injonctions vont à la femme. Hein. C'est elle qui, évidemment, ne peut pas susciter le désir, tout ça, tout ça. C'est pas son fils le problème.
Et il décide finalement d'en avoir un, de se dire, bah, écoute, on va essayer d'adopter, comme ça, ils nous foutront la paix. Puis bon, toi, Soumi, t'en veux un. Bon, moi, ça ne va, ok. Bon, Rim, elle est pas très, très contente. Et en parallèle, Shardul va surveiller un faux mariage gay. Il y a d'ailleurs des manifestants qui sont en mode « Oui, mais c'est pas un vrai mariage, ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est interdit, gna 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 gna. » Et il y a un homme qui s'appelle Guru qui va venir un petit peu draguer Shardul en lui soufflant dans la figure. J'ai noté, c'est une technique de drague.
Et je me suis dit « Putain, j'espère qu'il a une haleine fraîche parce que quand il lui souffle dessus, je me suis dit « Gars, si t'as bouffé un fish and chips juste avant avec une sauce tartare, je te raconte pas la gueule qu'il va faire en face. »
Non, mais c'est parce que tu vois, en Inde, ils ont plus d'éthylotest, donc en fait tu souffles dans la main ou dans la figure de l'inspecteur de police pour voir si t'as bu de l'alcool. C'est pas très Covid hein, d'ailleurs tout ça.
Horrible. Et mais donc, bref, grosse tension sexuelle.
C'est ça. Et donc Soumi va faire croire à belle-maman qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est Shardul qui est stérile, donc elle fait un faux test avec Rim. La famille va accepter l'adoption et la maman va enfin rentrer chez elle, mais ah là là, zut! Elle manque le train pour rentrer et bah, t'as Shardul qui est obligé de la ramener à l'appartement. Et là, qu'est-ce qui se passe quand la maman rentre dans l'appartement ? Et bah, il y a Soumi et Rim qui sont ensemble, qui étaient en train de faire leurs petites affaires. Et c'est le drame. Soumi est ramenée chez elle par son père. Son frère va la traiter de pervers, sa mère, elle est ultra vénère, va lui dire « Ouais, j'aurais préféré que tu sois morte et tout, mais c'est une honte, franchement, comment tu peux nous faire ça, c'est dégueulasse et tout. » Le papa, il dit rien, il va à sa boutique, et quand il y a Soumi qui va pour le retrouver, qu'en gros, elle lui dit « Mais dis-moi quelque chose, franchement, moi, je m'étais toujours imaginé que quand je ferais mon coming out, tu serais le seul à me soutenir, à m'aider. » Et pour toute leur réponse, le papa va lui dire « Mais pourquoi c'est tombé sur nous ?» Et il va pleurer. C'est genre la...
Ah, cette scène, elle est super triste.
Ah,
vraiment, elle est hyper émouvante. Et elle est... Ouais, parce que tu vois bien que Soumi, déjà, elle fait bonne figure, alors que tout le monde la regarde maintenant de travers en mode ah, t'es une lesbienne, t'es dégueulasse et tout, t'es vraiment une perverse. Tout le monde lui tourne le dos et elle espérait avoir du soutien de son papa qui l'a toujours soutenue. Et là, lui, il est en mode désespoir, en mode mais pourquoi moi? Pourquoi nous? Et là, tu fais ah non, oh la
Mais
peau.
en plus, le papa, tu sens que ça lui brise d'autant plus le cœur parce que tu sens qu'il aime sa fille à fond, mais qu'il n'a pas non plus envie de l'insulter, lui faire de peine et tout. Mais c'est juste que il est paumé, quoi, c'est tout. Alors, sa mère, c'est une vraie garce, mais le papa, il n'a pas envie d'être méchant avec sa fille malgré tout. Il a quand même envie. Tu sens qu'il a envie d'accepter, mais qu'il n'y arrive pas pour l'instant.
Ouais. Et Soumi, très classe, elle accepte de faire ce que lui avait demandé Chardoul, à savoir de pas le balancer lui
Ouais.
en retour et de le faire plonger avec elle en mode bah attendez, je me suis pas cachée toute seule. Parce que du coup, tout le monde est en mode. Parce que Chardoul, lui, pareil, il rentre dans sa
La
famille et
réunion de
là,
famille, mon Dieu.
t'as la réunion de famille, donc dans une composition intéressante parce qu'il a en gros tout le monde devant lui, sauf sa mère qui est dans son dos. Et toute la famille va y aller à cœur joie en mode ouais, oh, le pauvre il s'est fait avoir, il a été trompé par une lesbienne, franchement c'est dégueulasse, mais comment on peut laisser passer ça? Alors t'as en plus monsieur docteur homéopathie là, qui nous fait oui, mais tu sais, même l'homéopathie ça peut pas guérir cette maladie. Je veux dire, maman, regarde, l'homéopathie de toute façon ça guérit rien du tout!
Déjà, l'homéopathie, c'est pas. Voilà, mais.
Ça dérit rien déjà, mon gars, alors tu sais.
Puis en même temps, comment tu veux guérir ce qui n'est pas une maladie?
Bah oui, mais c'est pour bien
Ah.
montrer à quel point ils sont vraiment d'un autre temps et dans une autre mentalité. Et en fait, face à toutes ces accusations, tous ces mots hyper durs, et ben pareil, dans une scène très émouvante, en fait, Chardoul, bah, il va décider de sortir du placard. Il va faire son coming out, il va dire, mais attendez, si vous parlez d'elle comme ça, mais parlez de moi aussi, parce que bah moi aussi, en fait, je suis un homo. Et là, c'est What? Tout le monde qui est choqué. Et du coup, il va finir par sortir en fait sur la terrasse. Et oh là là, le moment où il appelle Soumi et
Oh,
qu'il lui
j'avais
dit
envie
en
de
pleurant que
pleurer.
en gros, ça y est, il a réussi à sortir du placard. J'étais là.
Mais cette scène, pareil, elle est tellement émouvante. Les deux scènes de coming out, elles sont poignantes, elles sont. Oh mon Dieu, franchement, moi j'avais vraiment envie de pleurer. En plus, enfin, quand Soumi, elle l'a au téléphone, elle est tellement émue qu'elle en pleure aussi, tu vois, parce qu'elle sait à quel point c'était difficile. Et en fait, c'est là, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que leur relation, elle prend un tournant et qu'ils commencent vraiment à être liés parce qu'ils sont tous les deux dans le même bateau, ils viennent de vivre tous les deux la même chose qui a été dure et ah, c'est beau. Et après, il y a la maman de Chardoul qui vient le rejoindre et elle lui fait un gros câlin et tout, et c'était beau.
D'où la composition où finalement il se retrouve face à toute sa famille, sauf sa mère qui est dans son dos et
Oui.
qui est en fait celle qui le soutiendra toujours et qui le soutient là, à ce moment-là. Et bah voilà, elle est trop mignonne et ça fait plaisir de voir qu'il a au moins sa maman qui le soutient.
Oui. Et on voit après que les filles, elles commencent à vouloir faire leur vie, elles visitent des appartements ensemble. Et c'est le jour de la Gay Pride. Donc on a une petite chanson. Il y a Soumi, Rim et Guru qui dansent, qui sont super fiers de leur orientation sexuelle, de faire partie de la commu et c'est trop cool. Et il y a Chardoul qui surveille un petit peu avec ses collègues. Et tu sais, il voit les trois autres et puis il hésite. Et finalement, ah, j'ai trouvé ça trop beau aussi. Il décide de mettre un petit masque LGBTQ et de danser devant ses collègues en mode ça y est, j'ai plus peur et tout. Et ses collègues, ils se regardent un peu bizarrement et tout. Puis après, ils disent bon, bah ok, voilà. Ils ont l'air
Ouais, ça
d'accepter
aussi
et
c'est
c'est très
intéressant parce
cool.
qu'effectivement il met son masque arc-en-ciel et tu sens bien qu'il y a un de ses collègues, il avait l'air de le soupçonner depuis longtemps, mais en même temps il avait pas envie de se l'avouer. Je le trouve très mignon aussi son collègue là, il a l'air tout gentil,
Oui.
juste un peu concon, il avait pas trop vu le truc ou plutôt il voulait pas trop le voir je pense. Et à partir du moment où il voit son boss qui en fait fait une sorte de deuxième coming out devant ses collègues, mais sans vraiment dire un mot, juste avec ce geste de mettre son masque arc-en-ciel et de commencer à danser un peu. Et j'ai bien aimé cette idée de se dire que bah, t'en as d'autres qui sont pas obligés de partir dans des grandes esclandres et de faire comment mon collègue est gay, scandaleux dans la police et tout la honte. Ils sont juste là, puis ils sont en mode ok.
D'accord.
Et tu dis ah oh. C'est bien.
Mais oui. Et en vrai, pareil, cette scène, je l'ai trouvée super émouvante et tout. Enfin, ils sont tous tellement mignons. Et puis voilà, puis t'as plein de panneaux, genre en mode légaliser le mariage gay, légaliser l'adoption pour les gays, les lesbiennes et tout et tout. Et justement, adoption. Donc en fait, Shardul et Soumi veulent divorcer. Mais Shardul lui dit, écoute Soumi, en fait, la procédure d'adoption qu'on avait engagée vient d'être acceptée. Mais il faut qu'on reste mariés si tu veux avoir ton bébé. Donc il décide de rester marié. Il l'annonce aux deux familles. Mais l'acceptation, elle est difficile. Il y a la tantine qui sort, qui est en mode « Non, mais c'est pas possible. »
Tu vois, c'est bien, too much pour moi.
C'est ça. Dans la famille de Soumi, c'est pas vraiment accepté non plus. Et on se retrouve un an plus tard. C'est le baptême du bébé.
Le baptême c'est catholique, le baptême.
Non, mais enfin, baptême, je sais pas. Bah si, c'est un espèce de baptême, quand même, baptême religieux.
Oui,
quoi.
C'est une cérémonie de protection.
Oui, mais je sais pas comment l'appeler, voilà, bref. Et du coup, il y a Rim qui est avec eux, en fait, parce qu'en fait, c'est que les parents qui doivent présenter le bébé, normalement. Mais Rim est quand même la deuxième maman du bébé, donc elle est avec eux, donc ils sont tous les trois assis. Et sauf qu'il y a le supérieur de Shardul qui arrive. Et Rim, quand elle le voit, elle se dit « Ah merde, du coup, faut que je m'en aille, je vais me mettre dans un coin, c'est pas grave. » Et là, on a un écran noir et on croit que c'est la fin. Et pas du tout, puisqu'on entend le père de Soumi qui dit à Rim « Mais non, mais va te rasseoir, Rim, c'est ta place, puisque t'es aussi la maman. » Et du coup, il y a Shardul qui décide d'assumer, qui dit à Guru « Allez, viens aussi t'asseoir à côté de moi. » Et tout le monde est heureux. Et c'était oui. beau. Et la fin, je l'ai trouvée trop mignonne aussi. Et d'ailleurs, on remarque qu'il n'y a que le papa de Soumi qui est là. Sa mère et son frère sont absents.
Ouais, il y a quelques gens de la famille de Shardul aussi.
Ouais, mais pas tout
le monde. Il y a sa mère, il y a une de ses sœurs. Ouais. Bah, il y a sa sœur, ouais.
Le beau-frère
aussi. Et il y a son boss.
Ouais. Et le boss...
Et donc voilà, ça finit.
Et le boss, quand il a l'air de capter, il est en mode... Et what? Ah, d'accord. Bon.
Ouais, mais pas capté en mode scandalisé, plutôt en mode hein? Hein?
je ne comprends pas pourquoi ils sont quatre.
Le parrain et la marraine? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, Jean-Claude, c'est le parrain et la marraine.
Voilà, ils vont vivre tous les quatre ensemble, voilà.
Dans une belle coloc. Voilà, c'est comme ça que ça se termine, avec un petit peu de douceur et
oui.
ou de bonheur.
Mais c'est beau.
Voilà, donc ça c'était pour en gros la review du film. Bon, on va pouvoir écouter une chanson et passer rapidement au top et au flop, comme ça on pourra détailler un petit peu nos avis dessus. À tout de suite. Mélanie, alors je te propose... Ah oui, c'est toi. Bon, je te propose de commencer par le plus difficile pour toi, je pense. Ça va être les flops.
Ah, j'aurais pas dû t'en parler hier. je suis embêtée parce que j'ai pas vraiment de flops, en fait. J'en ai pas trouvé. Peut-être que toi, quand tu vas m'en dire, ça va faire tilt. Mais je t'avoue que je n'ai pas réussi à en trouver.
Eh ben moi j'en ai.
Ah bah vas-y.
Parce que en fait en vérité, donc j'avais très envie hein, de le voir ce film, je l'attendais impatiemment. Sauf que en réalité, arrivé à la fin, j'ai pas été plus emballée que ça. Alors ça reste un très bon film, hein, y a pas de problème. Mais si vous voulez, déjà je l'ai trouvé très long. En fait j'ai beaucoup aimé les 20 premières minutes, qui sont en fait jusqu'au moment où il y a le mariage. Les 20 premières minutes sont très intéressantes, j'étais à fond dedans. Arrive le mariage, et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pendant 2 heures ?» Parce qu'on est arrivé déjà à un moment un peu charnière, tu te dis « Tout ce qui reste derrière, normalement, ça va être le « Ah ah ah, faut pas qu'on se fasse prendre, coming out, fin. » Je me suis dit, mais ça, sur 2 heures, ça va être interminable. Et en fait, ça a été un peu le problème, c'est que après j'ai re-raccroché au film que sur les 20 dernières minutes. Donc, en fait, j'ai tout un milieu que j'ai trouvé extrêmement long, parce qu'en fait, on tourne en rond et ça s'étire. En fait, je l'ai noté, mais genre, on a 1 milliard de chansons romantiques. J'en veux bien une, tu vois, sur chaque couple et tout, parce qu'ils sont mignons. Mais en fait, on les enchaîne encore et encore et encore. Et en fait, il se passe rien. Il se passe pas vraiment grand-chose au milieu. On n'est même pas dans un côté très comédie, divertissant, où on serait vraiment en mode « Oh mon Dieu, ciel mon mari, vite mon amant dans le placard, oh oh oh, faudrait pas qu'on la trouve et tout », tu vois, qui serait un peu too much et classique, mais au moins qui reste toujours un peu divertissant, tu sais, ces trucs un peu vaudeville, genre « Oh là là, vite, cache-toi, situation improbable, mets-toi sous le canapé, rampe, pour pas que belle-maman te voie », et du coup, pas vraiment, c'est juste que on les suit, ouais, il se passe pas grand-chose, j'ai trouvé ça long, et puis, en vrai, leurs histoires sont pas vraiment développées, ni d'un côté ni de l'autre, en fait, on a des moments vlog, vraiment en mode, ah, on est ensemble, il y a de la musique, tout ça, mais, je sais pas, ça manque un peu de profondeur, parce que d'un côté, t'as Chardoul qui est dans une situation chaotique, où on n'a pas vraiment vu Kabir, on n'a pas vraiment vu leur histoire, elle se termine mal, et on ne voit pas vraiment développer quelque chose avec Guru. Et à côté, pareil pour Rim, bah globalement, tu la vois juste comme la meuf qui vit chez eux. Et c'est tout, c'est pas très développé. En plus, ils ont pas spécialement d'atomes crochus, alors c'est réaliste. Mais du coup, moi, j'avais pas d'attache pour les personnages, j'avais pas d'attache pour leur couple, j'avais pas d'attache pour eux parce qu'ils avaient même pas une espèce d'amitié, ça m'a manqué un peu. Et du coup, bah je sais pas, moi, je manquais d'émotion, je manquais d'implication. Et ouais, ça m'a fait un grand moment de creux. Et donc, je me suis un peu ennuyée, très honnêtement, sauf sur le début et sur la fin. Et puis, bah, on est sur un... Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films sur la communauté LGBT en Inde, donc bon. Mais on est quand même sur un truc très classique de... On va parler de coming out, et pas de couple qui existerait déjà, qui aurait d'autres soucis, d'un côté un peu banalisé. Bon, après, c'est vrai qu'ils n'ont pas suffisamment de films sur des coming out pour en plus faire un peu la blasée de la vie. Mais bon, c'est pas très original, quoi. Je sais pas, je m'attendais à un truc classique de la part du trailer où ça mettrait 1000 ans à arriver au mariage et ensuite un petit peu le mariage, un petit peu de « Oh là là, faut cacher mon amante. Oups, coming out forcé et acceptation ou rejet des familles. » Et là, on était sur un autre truc classique où c'était juste bah, très vite le mariage, et puis très très longuement le « Ah, faut cacher mon amante, coming out forcé, acceptation, rejet. » Bon, voilà, c'est classique, je sais pas, ça manquait un peu de peps, en gros.
Ok. Bon, je suis pas trop d'accord avec toi, mais ok.
Bah, c'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord.
Mais tout à fait, tout à fait. Là, t'as des tops quand même, ou pas?
Mais oui, j'ai des tops. Ah. C'est pas parce que je me suis un peu ennuyée que le film est pas bien. Parce qu'après, le film est, je trouve, superbement bien écrit quand même. C'est pas parce que je me suis ennuyée, mais il y a plein de choses que je trouve hyper intelligentes. Déjà, je trouve très bien l'écriture des personnages. Comme je l'ai dit, on n'est effectivement pas sur des stéréotypes. On n'a pas le gay efféminé. On a un mec lambda, voire même qui détourne le fameux code du policier super viril, etc. Ça, je trouve ça très intelligent. On n'a pas la lesbienne butch, donc celle qui est censée être super masculine, avec les cheveux courts, tu vois. En gros, cette idée qui circule dans les milieux homophobes avec, en gros, ah bah, dans un couple gay, t'en as un qui doit faire la femme, et dans un couple lesbien, t'en as une qui doit faire l'homme. Parce que bon, tout le monde sait que finalement, il faut retrouver un espèce d'équilibre hétéro, quoi. C'est ça l'idée qui peut circuler. Donc là, on a juste des gens lambda, c'est très bien. Pareil, j'ai trouvé ça bien qu'on ne cherche pas à nous la faire non plus une soumise qui serait hyper sexualisée, parce que c'est souvent ça le risque aussi, c'est de faire des lesbiennes qui sont très sexy, en gros pour servir de fantasme lesbien, bah comme Amal, en fait, dans le remake de 10%,
ouais,
de Call My Agent, où il y avait vraiment une vision très male gaze, en fait, du couple lesbien. Où là, bah non, c'est une meuf comme une autre. En plus, elle est prof de sport, mais c'est pas pour autant qu'elle est masculine. Et c'est pas non plus, elle est pas non plus over-sexualisée. Donc ça, je trouve ça très intelligent. J'aime bien l'idée de la mère qui est un petit peu atypique aussi, sans qu'on cherche spécialement à mettre des mots dessus. J'ai trouvé, il y a des petits détails qui sont intéressants comme ça. Par exemple, je sais pas si t'as fait attention, mais le personnage de Shardul a des tocs. Je sais pas si t'as fait attention.
Non, j'ai pas fait
C'est
gaffe.
assez subtil, mais il y a des moments en arrière-plan où on voit par exemple qu'il a le toc d'ouvrir et de fermer les portes 3 fois à chaque fois. Et ça, c'est juste des petits trucs, et je me dis, tiens, c'est intéressant de dire, bah, on a un personnage, bah, ça fait partie de son quotidien, on ne le fait pas forcément attention, mais c'est quelqu'un qui a des tocs. Tu y referas attention une prochaine fois, mais à chaque fois, il ouvre et il ferme les portes 3 fois
Non, j'ai pas fait gaffe.
avant de fermer. Et voilà, intéressant de montrer que les violences conjugales existent aussi dans les couples gays, que. Bah lui, il reste quand même un homme qui a grandi dans un milieu patriarcal, donc il a des réflexes de domination, de protéger sa virilité, voilà, des trucs un peu comme ça, de vouloir faire un peu le macho, de donner des ordres. Voilà, ça, je trouve que c'est intelligent aussi. Voilà, j'ai trouvé que quand même, il y avait une écriture hyper intelligente. Après, évidemment, c'est des très bons acteurs, mais ça, c'est plus à démontrer, hein. On sait que c'est un casting qui est très bon, donc je ne suis pas surprise du talent des acteurs et des actrices. Voilà, et puis bah, ça fait plaisir d'avoir un film sur le sujet. Ah oui, j'ai beaucoup aimé la campagne marketing. En fait, j'ai beaucoup aimé les affiches. Je les ai trouvées très belles, très colorées. J'ai beaucoup aimé l'idée que, notamment, on voit une des affiches, c'est où on les voit en tenue justement de mariage, et t'as le voile de la mariée qui a tout un bandeau arc-en-ciel, et Raj Kumar qui a cette espèce de comment de bandeau de perles qu'ont d'habitude les mariés qui sont blancs, mais qui est là en forme arc-en-ciel. Et j'ai trouvé ça génial comme idée de détourner en fait les tenues traditionnelles de mariage. J'ai trouvé les campagnes d'affiches très belles. Voilà, je
Ouais,
tenais à le
elles sont
souligner parce que quand je
chouettes.
les aime bien, je le signale. Et donc j'aime bien aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé les affiches du film.
Ouais, elles sont assez chouettes. Du coup, je pense que je vais reprendre un petit peu tes tops, puisque enfin, j'ai les mêmes. Bah, déjà pour la thématique abordée et de manière quand même très intelligente. Les personnages ne sont pas stéréotypés comme tu l'as dit, et ces genres de films qui, je pense, peuvent contribuer à expliquer un petit peu l'homosexualité et à la dédiaboliser pour des gens pour qui c'est quelque chose d'impensable. Le casting, évidemment, est excellent, tout le monde joue extrêmement bien. Et les chansons sont plutôt sympas, surtout la chanson principale hein, qui porte le titre du film. Donc voilà, je ne vais pas revenir puisque sur tout ce que tu as dit, puisque c'est à peu près ce que je pense. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le film et c'est vraiment le genre de film à voir et qui ouvre une nouvelle ère, je pense, dans le cinéma indien au niveau de ce genre de thématique.
Ben j'espère, ou en tout cas que ça pourra servir peut-être de support après dans des discussions, ou qui sait, dans le futur peut-être dans les écoles ou les universités, comme je sais pas, comme support pédagogique pour en discuter, tu
Ouais.
vois, ce serait pas mal. Voilà, du coup, quelle note mettrais-tu à ce film?
Eh bien, je lui mets la note de 17.
Waouh! Alors moi j'avoue que même si je le trouve très bien
Puis il est drôle
et
aussi. Il y a des moments
intelligent,
drôles aussi, on n'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plutôt drôles.
ouais, j'ai pas trop souvenir d'avoir beaucoup rigolé, mais
Oh, si, quand même, des fois, c'est rigolo.
oui, ouais,
Il y a
non,
certaines punchlines qui sont pas mal, quoi.
ouais. Sur le principe, je le trouve vraiment très bien, je le recommanderais, je vous recommande de le regarder. Après moi, perso, comme je me suis quand même un peu ennuyée, je l'avais déjà vu une fois, là je l'ai revu très rapidement pour faire l'épisode, mais du coup c'était pas non plus un grand kiff parce que je savais qu'il y avait le ventre mou sur lequel j'allais m'emmerder. Donc je pense que je lui mettrais un 14.
D'accord.
Voilà. Mélanie, as-tu autre chose à ajouter sur ce film, la communauté LGBT?
Non, je pense qu'on a tout dit, mais regardez-le, quoi. C'est Il y a un petit, il y a des moments drôles, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Oui, si, les passages émouvants sur les coming out, dans les, enfin, je vais dire ça dans les tops, ces passages-là sont vraiment très, très émouvants et c'était beau.
Ah ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a quand même des scènes très fortes.
C'est ça, et c'est très très beau. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un film à regarder et qui peut aussi peut-être un petit peu casser les clichés que les gens qui ne connaissent pas Bollywood peuvent avoir sur Bollywood.
Aussi, ou les gens qui ont des clichés sur la communauté LGBT, oui. Aussi, ça peut être pas mal de... Ouais, de pas voir ouais, des caricatures, des stéréotypes, ça fait plaisir. Disons que ça fait partie de ces films qui sont vraiment dans cette nouvelle vague du cinéma, qui est vraiment très engagé, qui fait des écritures intelligentes, ça fait plaisir. Donc voilà, on vous le recommande quand même. Regardez-le, il est bien.
Ouais, exactement.
Et sinon, Mélanie, où nous retrouve-t-on?
Alors, sur Instagram, c'est Bollywood-Versus, pardon, Twitter, BV-Podcast, et aussi on a une adresse mail, Bollywood-Versus@gmail.com. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous laisser des petits mots pour nous donner votre avis, nous suggérer des films, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de films qu'on veut traiter, donc on n'est pas vraiment sûr de pouvoir faire les films que vous nous suggérez. Ça dépend aussi un petit peu de notre humeur, ça dépend des nouveautés qui sortent, donc voilà.
Après, on n'est pas obligé de les faire en épisode, vous pouvez juste nous suggérer pour que nous, on regarde, et en fonction de ce qu'on découvre, en fait, c'est très fluctuant, hein. Des fois, c'est parce qu'on décide de regarder un film, et là, on se dit, ah ouais, attends, celui-là, faut qu'on le fasse en épisode quand même, du coup, ça remonte en haut de notre liste. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez quand même pas, parce que bah, nous, on aime bien découvrir, et qui sait, ça peut subitement se retrouver en top liste.
Bah, comme Bad Ido, au final, parce qu'on l'a regardé quand il est sorti sur Into Zan, puis après, on s'est dit, bah, faudra peut-être le faire sur le podcast, quoi.
Tout à fait. Voilà, voilà. Sinon, si vous voulez nous donner de l'argent, je peux vous donner mon RIB. Ouais, nous, on n'est pas sur Patreon parce qu'on n'aime pas donner des contreparties. Donc, si vous voulez donner du pognon, je vous donne mon RIB directement. Non, je déconne.
En même temps, je vois pas trop quel genre de contrepartie on pourrait donner.
Bah écoute, je sais pas, les gens donnent des stickers, des petites lettres, des épisodes bonus et tout. Non mais c'est une blague, j'avais juste envie de faire une blague en disant je peux vous donner mon RIB.
Bon après tu sais dessiner, donc tu peux très bien nous dessiner des stickers. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir.
Je vais faire des origamis aussi, voilà. Si vous voulez, je vous fais des mini Sherlock. Ah là là. Bref, sur ce n'importe quoi et sur ces bêtises, nous on vous dit à dans 15 jours.
Oui.
Et puis en attendant, bah écoutez, regardez Bad Ido si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, donnez-nous votre avis parce que ça nous intéresse. Et puis sinon, on se dit à dans 15 jours, regardez les films Bollywood, écoutez nos épisodes.
Tout à fait.
Et puis voilà.
À dans 2 semaines.
À la prochaine.
Bye bye.
Bye bye. जन्म 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 साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं